Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez sur Internet. On est là pour la troisième réunion avec notre frère François Le Picard, qui vient de Suisse, avec son épouse, notre sœur Suzanne. Et ils sont là pour nous apporter le conseil du Seigneur. On s'est régalé cet après-midi encore. Et je pense que ce soir, on va trouver encore quelque chose de bon pour nos âmes. C'est pas vrai? Ça fait du bien, hein? C'est bon, hein? Et donc, que Dieu nous aide. Je vais lui céder tout de suite la parole pour qu'il puisse se prendre le plus longtemps possible, le temps que le Seigneur met sur son cœur. Vous êtes prêts? Hein, autrefois, samedi, on est quoi? On est samedi aujourd'hui. Samedi soir, on allait danser, on s'en fichait si c'était 1h du matin. Hein? Alors, bon, on ne va quand même pas faire les difficiles, dire pour Jésus, c'est notre Dieu si merveilleux. Amen. C'est tellement beau ce que notre frère nous dit. Hein, on a deux sœurs Suzanne. N'est-ce pas, sur Suzanne Gaulier? C'était beau, hein? Cet après-midi, j'étais derrière toi, je voyais que tu faisais comme ça. T'étais contente, ça fait plaisir, amen, gloire à Dieu. Mon frère, le Picard, que Dieu te bénisse. Je te passe le micro, que Dieu te bénisse.
Merci.
Amen.
Merci.
Je vais juste prendre mes précautions, donc je vais me servir un petit verre d'eau, ça me servira pour la soirée. Le moteur commence à chauffer, on peut le rafraîchir, il n'y a pas de risque comme ça. Bien. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, je suis heureux de vous revoir ce soir encore pour ce troisième service. Je vais aussi mettre ma montre devant moi. Pas trop oublier le temps non plus, et ça fait plaisir de voir aussi quelques enfants avec nous ce soir. J'étais assis à côté d'une jolie fillette, Noémie, c'est ça, hein? Elle était toute surprise de me voir à côté d'elle, je crois, c'est ça. Ah, puis encore une autre jeune fille, comment t'appelles-tu? Rebecca, d'accord. Ça fait vraiment plaisir de voir chacun et chacune, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, lorsqu'on parle de ses expériences avec Dieu, eh bien, je crois que c'est important, parce que, disons, ce qu'on a expérimenté, c'est devenu une partie de nous. Si je vous parlais simplement de quelque chose que j'ai appris, que j'ai entendu, que j'ai lu, bon, ben, n'importe qui peut faire ça, disons qu'il y a une bonne mémoire, eh bien, on peut s'inspirer de quelqu'un d'autre, et puis enregistrer les informations, les transmettre à quelqu'un d'autre. Et ça peut faire du bien, mais lorsqu'on parle de ce qu'on a soi-même expérimenté, eh bien, ce qu'on dit, c'est une partie de nous. Ce n'est pas juste une connaissance, c'est quelque chose qui s'est traduit dans notre vie. Et chacun a son expérience, vous avez la vôtre, j'ai la mienne, et je crois que chaque témoignage est merveilleux, et je crois de tout mon cœur au miracle aujourd'hui dans tous les domaines. Mais quand Dieu change une vie, eh bien, c'est un miracle. Il y a les miracles physiques, mais quand Dieu fait passer quelqu'un de la mort à la vie par une vraie nouvelle naissance, c'est vraiment miraculeux. Comme Dieu l'a dit dans sa parole, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite je mettrai mon esprit en vous afin que vous suiviez mes commandements, etc. Ça, c'est un miracle. Que Dieu puisse prendre des êtres pécheurs comme vous et moi, et puis ensuite, faire le travail nécessaire en nous pour nous nettoyer, nous purifier, nous sanctifier, tout cela, pour que lui puisse, lui le Dieu parfait, le Dieu saint, venir habiter dans ses corps humains pour se manifester au travers de nous, pour s'exprimer au travers de nous. Je trouve ça extraordinaire. N'est-ce pas que Dieu veuille s'identifier à nous, s'unir à nous et se manifester au travers de nous. Donc, si vous permettez, eh bien, pour introduire le message de ce soir, je vous ai dit que j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus à l'âge de 8 ans et demi dans une église pentecôtiste à Lausanne en Suisse. Et c'était le départ d'une marche merveilleuse avec le Seigneur Jésus. Et au début des années 1960, j'ai eu l'occasion d'aller à Lyon avec ma mère et aussi une cousine de la famille qui avait une voiture. Et nous sommes allés à Lyon pour écouter le frère T.L. Osborne qui prêchait parmi les gitans. Et je me souviens de cette grande tente où il y avait tous ces gitans, ces tziganes et toutes les caravanes et tout cela. J'étais un petit bonhomme d'une dizaine d'années comme ça. Mais je sais que vous aimez beaucoup le frère Osborne et vous avez eu le privilège de le voir physiquement. Et je pensais à ça tout à l'heure. Si une fois, frère Michel, il revient un peu dans le coin, eh bien, fais-le-moi savoir. Et j'aimerais quand même lui toucher la main aussi pour le remercier pour la bénédiction qu'il était pour moi déjà lors de cette réunion. Mais aussi, par la suite, j'ai eu l'occasion de voir un film que vous avez peut-être déjà vu qui s'appelle « L'or noir ». Combien ont vu ce film, « L'or noir » ? Frère Michel, frère Franck, et puis c'est tout ? D'accord. Et ça parlait des campagnes d'évangélisation du frère Osborne en Afrique. Ça vous dit un petit peu quelque chose maintenant, hein ? Ça fait longtemps, mais c'est vrai. Et quand j'ai rencontré le frère Michel, votre pasteur, et qui m'a dit qu'il connaissait personnellement le frère Osborne, j'ai dit, frère, j'aimerais tellement retrouver ce film, j'aimerais bien le revoir, ça m'avait tellement impressionné. L'or noir, c'est-à-dire, pas simplement le métal, mais disons, ces précieuses âmes en Afrique, ces croyants de couleur, noir et tout cela, mais qui ont du prix aux yeux de Dieu, et une valeur, et parmi lesquelles Dieu s'est manifesté, et se manifeste encore. Et frère Michel a eu la gentillesse de me faire une copie de ce film il y a quelques années en arrière, et je l'ai regardé de nouveau, et c'est vrai que j'apprécie le mystère de frère Osborne. Frère Branham a parlé de lui dans bien des messages aussi, et il a dit, frère Osborne, eh bien, il n'impose même pas les mains aux malades, il prêche la parole, la foi vient de ce qu'on entend la parole, et les gens comprennent que Jésus-Christ les aime, qu'il veut les guérir et tout cela, ils s'emparent de leur guérison par la foi, et Dieu les guérit. Et frère Branham appréciait la manière dont Dieu agissait par l'entremise de frère Osborne. Et frère Osborne avait été impressionné, il était un jeune prédicateur, mais il est allé à une réunion de frère Branham à Portland, dans l'Oregon, et une réunion de frère Branham. Et c'était au cours de cette réunion que, alors que Frère Branham était à la chaire, bien que tout à coup, les prédicateurs qui étaient sur l'estrade ont commencé à avoir peur, à commencer à se lever, à bouger. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et était entré sur l'estrade, sur la plateforme de l'estrade, un homme de grande stature, avec un air menaçant, vraiment une grosse, une grande baraque, comme on dit, comme ça, mais un regard méchant et une attitude vraiment agressive et tout, et s'est dirigé droit vers Frère Branham. Et les prédicateurs qui étaient là connaissaient cet homme. C'était quelqu'un qui était possédé par des mauvais esprits, qui haïssait les prédicateurs. Il avait, je crois, déjà vraiment frappé un prédicateur fortement et tout. Et là, il en voulait à Frère Branham aussi. Il est venu là pour l'insulter devant des milliers de personnes qui étaient dans la salle. Pour l'insulter, pour se moquer de lui, le traiter de serpent et d'imposteur et tout cela. Et Frère Branham m'a dit, mais il était grand, Frère Branham avait à peu près ma taille, mais il était plus grand que moi, un grand costaud et tout. Il a dit, mais s'il avait voulu me frapper, me démolir, il était capable de le faire. Et Frère Branham est resté tranquille, tout le monde était là, et se demandait si la police devait intervenir. Frère Branham a dit, non, restez tranquille, ce n'est pas une affaire de chair et de sang, laissez Dieu s'en occuper. Et cet homme est venu et il crachait contre Frère Branham et il brandissait ses poings, tout cela. Et Frère Branham m'a dit, mais tout à coup, quelque chose est arrivé. Plutôt que de haïr cet homme, je l'ai aimé. Mais ce n'était pas humain, ce n'était pas un amour humain, philéo, c'était un amour divin, agapao, agapé. Il dit, mais je l'ai aimé. Il a dit, mais c'est un être humain, il a aussi une famille. Mais c'est le diable qui se sert de lui pour faire du mal comme ça, mais c'est un homme qui a besoin de Jésus, qui a besoin de Dieu et tout cela. Et cet homme était menaçant, il voulait vraiment briser tous les os de son corps, il était vraiment en colère et tout cela. Et Frère Branham m'a dit, eh bien, puisque tu as lancé un défi à l'Esprit de Dieu, tu tomberas à mes pieds. Et quand l'homme a entendu ça, il a dit, je vais te montrer qui c'est qui va tomber aux pieds de l'autre. Et s'apprêtait à frapper Frère Branham. Et l'amour divin est intervenu. Eh bien, l'amour, la puissance de l'amour divin. Et au moment où il allait frapper, cet homme s'est effondré à ses pieds et tombé inconscient. Quelqu'un lui a dit, est-ce qu'il est mort ? Il dit, non, il n'est pas mort. Et ils sont venus le prendre comme ça, le porter dehors, parce qu'il était complètement inconscient à tout cela. La puissance de l'amour divin. Et frère Osborne était dans la salle à ce moment-là. Et il a dit, mais quand j'ai vu ça, mais, j'ai dit, mais Dieu peut faire des choses comme ça aujourd'hui. Et il cherchait plus de Dieu, vraiment pour être encore plus utilisé par Dieu. Il a été trouvé frère Branham, nommé frère Branham. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce ministère de puissance que vous avez, tout cela et tout. Et frère Branham a dit, mais simplement, reste avec la parole. Et il lui a dit, mais va t'asseoir pendant quelque temps au pied de ce vieux chêne. Vous savez, l'arbre chêne. Mais c'était imagé. Il parlait du frère F.F. Bosworth, qui était un frère plus âgé que frère Branham, un des pionniers là, dans le mouvement pentecôtiste, vraiment un homme qui avait la foi dans la guérison et tout. Il a dit, frère Osborne, eh bien, va un petit peu à l'ombre de son ministère, et tu verras, ça va te faire du bien, ça va te fortifier. Et effectivement, frère Osborne a fait cela, et après Dieu l'a béni, il a voyagé dans le monde entier, il était une source de bénédiction. Et donc j'ai eu le privilège de le voir, mais là, loin, 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 hein, c'était dans un grand chapiteau. Ça m'avait impressionné, puis après le film « L'or noir ». Puis après, j'étais déjà pasteur, c'était, je pense, aux années 70-80. Et puis là, j'ai reçu une série de cassettes aussi, où frère Osborne parlait sur est-ce que c'était la foi ou la guérison divine, comme ça, et on les a écoutés aussi à l'église, un très bon enseignement. Et j'avais lu aussi un livre qu'il avait fait aussi, on voit sa photo dessus, qu'il était jeune et tout. Donc, je respecte et j'aime les hommes de Dieu. Et là aussi, au début des années 1960, eh bien, j'ai eu entre les mains un livre qui s'appelait William Branham. Et c'était un livre qui avait été traduit d'anglais en français, qui relatait l'appel de frère Branham, son ministère de guérison et toutes ces choses. C'est un livre qui avait paru après sa visite en Suisse en 1955. Donc j'avais une dizaine d'années. Je dis simplement ceci pour vous dire, vous les jeunes, les enfants, eh bien, il y a des choses qui sont à votre portée, vous pouvez lire, qui vont vous faire du bien, vous impressionner. Et quand j'ai lu comment il est né dans une famille très pauvre et que son père eh bien, était un alcoolique et toutes ces choses-là, et toute son enfance difficile, tout ça, et après comment Dieu l'a appelé, et puis après comment il a perdu sa femme, sa petite fille et toutes ces choses. Et j'ai vu son humilité, sa sincérité, sa consécration, et j'étais vraiment impressionné par ce témoignage. Et comment Dieu le bénissait dans les réunions, et quand il priait pour les malades, et ce don de discernement aussi, des pensées du cœur des gens, et les visions que Dieu lui donnait. Je pensais, mais c'est vraiment magnifique, c'est la Bible actualisée pour aujourd'hui, pour maintenant. Et ça m'a vraiment impressionné. Donc, ce ministère, ce grand évangéliste. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il était prophète, un évangéliste. J'avais lu aussi un autre livre, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle « Dieu leur parla ». Ça vous dit quelque chose, « Dieu leur parla » ? Et c'est un livre qui contient le témoignage condensé de plusieurs grands évangélistes, disons, de ces années passées. Et en lisant leurs témoignages, comme Dieu les a appelés, comme Dieu les a utilisés, plusieurs d'entre eux, dans leurs témoignages, citaient le nom de frère Branham, y compris frère Osborne, qui a été vraiment marqué par ce qu'ils avaient vu dans les réunions. Donc, bon, c'est un nom qui ne m'était pas inconnu. Je me souviens qu'à la fin de 1965, dans le journal local, qui s'appelait sauf erreur la Feuille David Lausanne à ce moment-là, eh bien, il y avait un tout petit article comme ça pour dire eh bien, le révérend William Branham aux États-Unis est mort des suites d'un accident de voiture. Et j'ai pensé, ah, oh, comme c'est dommage, j'aurais tellement voulu le rencontrer. Ça m'a fait de la peine. Et quelques années plus tard, un prédicateur allemand est venu à Lausanne et on était invité à ses réunions. Il a prêché que nous vivions la fin des temps et tout cela, et que Jésus allait bientôt revenir, et que selon la Bible, selon le prophète Malachie, et ce que Jésus a dit dans les évangiles, elle y viendra premièrement et rétablira toutes choses. Il dit, mais Dieu a annoncé qu'à la fin des temps, avant le jour de l'Éternel, il enverrait un prophète pour ramener notre cœur à lui. Et ce prédicateur a dit, bien, cet homme, je l'ai rencontré, il s'appelle William Branham. Il n'est pas qu'un évangéliste, il est aussi un prophète. Et quand j'ai entendu ce nom, William Branham, j'ai dit, mais c'est le même, que celui dont j'ai lu le récit là, la vie et le témoignage et le mystère de guérison et tout ça, mais j'ai dit, mais c'est lui. Donc j'étais déjà en confiance. Vous savez, aujourd'hui, quand vous dites un prophète au 20e ou 21e siècle, il y a des gens qui deviennent pétrifiés comme ça. Pour eux, prophète, c'est tout de suite faux prophète. Vous connaissez ça. Mais ce n'est même pas logique d'avoir une réaction pareille. Jésus nous a averti qu'il y aurait de faux Christ et de faux prophètes. J'ai travaillé pendant bien des années dans une banque en Suisse. Et j'ai même travaillé à la fin au service de la caisse. Donc, je touchais les billets d'argent. Hein. Je les avais dans mes propres mains. Les francs suisses, les billets en monnaies étrangères et tout. Et effectivement, de temps à autre, eh bien, dans toutes les liasses que quand nous touchions, il y avait des faux billets. Hein. Donc, on devait être sous nos gardes. On avait un petit appareil avec de lumière ultraviolette et des choses comme ça. On avait des gros lits pour comment reconnaître les contrefaçons et tout. Mais on sait que dans toutes les monnaies, il y a des contrefaçons. N'est-ce pas vrai? Donc, il y a des gens qui fabriquent des faux billets. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a des faux billets, que tous sont faux? Non. Et savez-vous une chose? Que dans tous les domaines, il ne peut pas y avoir de contrefaçon ou de faux avant qu'il y ait au moins un vrai. C'est logique. S'il n'y a pas eu de vrai au départ, eh bien, tous les faux qu'il y a là ne sont pas des faux, ce sont des originaux. Voyez. Donc, Jésus, avec raison, nous a dit, faites attention aux faux prophètes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais s'il y a des faux, eh bien, ça veut dire qu'il y en a au moins un vrai, que Dieu confirme, que Dieu authentifie dans le ministère et conforme à la parole de Dieu. Et donc, quand on m'a dit, William Branham, c'est le prophète de la fin des temps, je dis, ah, mais je ne savais pas cela. Mais alors, s'il est le prophète de Dieu, si Dieu a parlé par sa bouche, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Et à ce moment-là, à la fin des années 60, c'était vers 1968, il n'y avait pratiquement rien de traduit en français. De temps en temps, il y avait un frère qui traduisait à partir de l'allemand quelques petits extraits, comme ça, dans une petite brochure qu'il éditait. Mais c'était vraiment au compte-gouttes, hein, comme ça. Mais il n'y avait pratiquement rien, comme ça, à pouvoir étudier pour savoir, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai pu obtenir de voisins chrétiens qui avaient commandé ça à Jeffersonville, qui avaient lu, qui n'avaient pas apprécié, quelques ouvrages de Frère Branham, l'exposé des sept âges de l'Église, la révélation des sept sceaux et quelques autres livres en anglais. Bon, comme beaucoup d'entre vous, j'avais fait un petit peu d'anglais à l'école, et puis avec l'aide d'un dictionnaire et beaucoup de transpiration, hein, j'ai essayé de déchiffrer l'anglais de Frère Branham. C'était pas du tout facile. Hein. Ça va. On sait tous son anglais, c'était pas un anglais académique ou de Cambridge ou d'Oxford, comme ça, c'était vraiment un anglais de la campagne des montagnes du Kentucky. Mais quand j'ai commencé à lire ses ouvrages, peut-être c'était aussi votre expérience, les sept âges de l'Église, la révélation des sept sceaux, ça provoquait deux choses en moi. J'étais un jeune homme de 18 ans environ à ce moment-là, hein, comme peut-être certains adolescents comme ça. Ça produit deux choses. Une, ça a répondu aux questions que j'avais concernant la Bible, concernant les mystères de la Bible. Même l'unité de Dieu. Hein. On m'avait enseigné dans les deux églises pentecôtistes que j'avais fréquentées, eh bien, il y a un Dieu en trois personnes. Un Dieu en trois personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Je dis, bon, d'accord. Donc, quand je prie, je dois prier qui? Alors Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Il dit, bon, je vais prier le Père. Mais maintenant, et puis Jésus, c'est quand même lui qui a donné sa vie sur la croix pour moi. Donc il faut quand même que je lui dise aussi quelque chose à lui. Puis après, ben, le Saint-Esprit, ben, c'est aussi important, puisque on doit avoir le Saint-Esprit actuellement. Donc maintenant, je m'adresse aussi au Saint-Esprit pour surtout pas qu'il y ait de jaloux entre les trois. J'essaye d'imaginer. On m'a dit, un Dieu, trois personnes. Je dis, bon, ben alors, ça fait une personne, deux personnes, trois personnes. Et j'essaie le plus gentiment, fidèlement possible de faire plaisir aux trois. Et puis, je me disais, oui, mais si un jour je vais au ciel comme je l'espère, mais je verrai qui au ciel? Verrai-je sur un trône un monsieur imposant, un vieillard avec une grande barbe blanche comme ça? Ah, ça c'est Dieu le Père. Verrais-je un homme plus jeune à côté de lui, avec des marques de clous dans ses mains, dans ses pieds? Ça c'est Jésus, c'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Ah, merci Jésus, vraiment, je suis très reconnaissant. Verrais-je une colombe qui voltige comme ça ici et là? Ça, tu vois, ça c'est le Saint-Esprit. J'essaie de me demander, mais qui verrais-je? Mais quand j'ai commencé à lire les prédications de Frère Branham, où il disait un Dieu, une personne, plusieurs fonctions. C'était pas facile tout de suite à comprendre. Le Père, le Fils, comment est-ce que le Père peut être un avec le Fils et tout cela? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père et tout. Enfin bon, mon raisonnement, ma matière grise, ça tourbillonnait là-dedans. Mais après, petit à petit, c'est devenu plus clair. Et j'ai compris qu'il y avait un Dieu qui était esprit, invisible. La Bible dit que personne n'a vu ni ne peut voir parce qu'il habite une lumière inaccessible. Mais ce Dieu voulait se faire connaître, il voulait se révéler. Donc, il a pris une première forme. Et quand il a fait ça, il est descendu d'un cran. Et cette première forme s'appelle la parole, le logos, c'est aussi le Fils. La Bible dit dans les psaumes, « Aujourd'hui je t'ai engendré ». Certains disent le Fils éternel de Dieu. Ça n'a pas de sens de dire cela. Nulle part la Bible parle du Fils éternel de Dieu. Dans cette manifestation, le Fils a eu un commencement. C'est au moment où il était engendré, où quelque chose est sorti de Dieu. Mais tout ça, c'était dans le domaine de l'invisible. On ne pouvait ni voir le Dieu esprit, ni voir le Dieu parole. Et l'homme est venu sur la terre, l'homme a péché, il avait besoin d'un rédempteur. Et ce même Dieu a été fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Qui était-ce? C'était le Père qui était voilé dans un corps de chair. C'était la parole qui était là dans un corps humain, appelé Jésus. Et c'est ce Jésus-homme, le parent rédempteur, qui a été crucifié. Il fallait qu'il vienne dans une chair semblable à celle du péché pour pouvoir payer le prix à notre place. Dieu en tant qu'esprit ne pouvait pas mourir pour nous. Dieu en tant que parole ne pouvait pas mourir pour nous. Mais quand il s'est fait chair en Jésus-Christ, en Jésus-Nazareth, à ce moment-là, l'homme Jésus, le corps de chair, a pu être crucifié à notre place. Mais Dieu n'est pas mort, parce que Dieu est esprit. Enfin, toutes ces choses que vous connaissez aussi, je commence à les découvrir. Et puis, ça devient de plus en plus clair. Je dis, ah, qu'est-ce que ça me fait du bien. Maintenant, quand je prie, peu importe que je l'appelle Père, Seigneur, Jésus, peu importe le titre que je lui donne, je m'adresse toujours à la même personne. Maintenant que je l'adore, que je loue, que tout cela, eh bien, quels que soient les titres que je lui donne ou la manière de le faire, je peux concentrer toute mon adoration sur un seul être divin, une seule personne. Vous savez, l'histoire nous le montre, la polygamie, ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire un homme, plusieurs femmes. Il y a toujours eu des jalousies, hein, des rivalités, tout ça. Ça n'a jamais fonctionné parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite, c'était un homme, une femme. Eh bien, le polythéisme, ça n'a jamais fonctionné non plus. Comment pouvez-vous donner tout votre amour? On a chanté tout à l'heure, j'aime Jésus et tout ça, mais à plusieurs dieux à la fois. Vous n'arrivez pas. Aujourd'hui, j'ai une épouse, la seule épouse que j'ai et que j'aurai, par la grâce de Dieu, mais parce qu'il n'y en a qu'une, tout mon amour, je peux le lui donner à elle. Mais si j'en avais deux ou trois ou quatre ou cinq, ça me serait difficile. J'aime un peu celle-ci, puis après, bon, il faut que je pense à celle-là, puis il ne faut pas que j'oublie celle-là. Ça serait difficile. Mais parce qu'il n'y en a qu'une, eh bien, on peut vraiment donner le meilleur de soi-même. Ainsi en est-il avec Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un, une seule personne, mais plusieurs manifestations, plusieurs fonctions, plusieurs formes différentes. Eh bien, qu'on vienne de ce côté, c'est toujours le même, et là on peut vraiment l'aimer de tout son cœur, on peut vraiment l'adorer. Donc toutes ces choses, eh bien je les ai découvertes dans le message, ça m'a beaucoup aidé. On m'avait enseigné, le péché est venu parce que Ève avait mangé une pomme. Je l'avais cru, mais je pensais, mais comment ça? Pourtant on mange des pommes aujourd'hui, mais quel rapport? Mais tout ça, je ne comprenais pas, mais c'était l'enseignement traditionnel. N'est-ce pas? Voilà, c'est un mystère, donc Ève a mangé une pomme. Mais quand j'ai compris vraiment ce qui était arrivé, oh, mes yeux se sont ouverts. J'ai compris pourquoi, aujourd'hui, dans le monde, eh bien, les problèmes sexuels sont des problèmes majeurs dans tous les pays du monde. Vrai ou faux? Quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelles que soient les coutumes, dans le monde entier, c'est un problème majeur chez les êtres humains. De quoi ça vient? D'où ça vient? Du péché originel dans le jardin d'Éden. Que les choses ne sont pas faites comme Dieu le veut. Même dans les églises chrétiennes, très souvent, eh bien, ce sont des problèmes. Les couples n'ont pas l'harmonie sur ce plan-là. Il y a toutes sortes de perversions, de dysfonctionnements, toutes sortes de choses comme ça. C'est quelque chose qui est la conséquence de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais tout ça, je ne savais pas. Mais maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi il est tellement important de rester pur, de ne pas souiller son corps, de ne pas pratiquer l'immoralité ou l'adultère ou l'homosexualité, toutes ces choses. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu a établi ces choses. Certains disent, mais c'est trop rigide, c'est trop difficile, c'est trop contraignant, c'est trop ceci, c'est trop cela. Mais aujourd'hui, il y a eu toute une époque où c'était l'amour libre. Allez, fais-toi plaisir, n'importe comment, avec n'importe qui et tout cela. Mais regardez où le monde en est aujourd'hui, avec toutes les maladies sexuellement transmissibles, le sida et toutes ces choses terribles qui se passent. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus suivre ce que Dieu a dit. Dieu avait ses raisons pour dire cela. Et je remercie Dieu. Donc toutes ces choses s'éclaircissaient pour moi. Et je dis, oh, mais ça c'est bon, ça c'est vraiment bon. Et ainsi de suite, tous ces mystères qui s'étaient dévoilés les uns après les autres. Mais ça produit une deuxième chose en moi, en lisant le message de William Branham. Ça faisait 10 ans que j'avais donné mon cœur au Seigneur Jésus, de l'âge de 8 ans et demi jusqu'à l'âge d'environ 18 ans, 18 ans et demi, 10 ans. Et Dieu avait fait des grandes choses dans ma vie. Il était devenu mon sauveur personnel, j'étais malade quand j'avais 8 ans et demi. Eh bien, j'ai pris Dieu au mot, par la foi, j'ai entendu la parole, j'ai cru la parole. Même personne n'a prié pour moi, j'ai dit à ma maman, « Maman, Jésus peut me guérir ». Elle a dit « C'est très bien ». Et le lendemain, eh bien, j'ai dit à ma maman, j'ai tous ces médicaments, j'en avais 10 à prendre différents. Tout à coup, j'étais frappé d'une maladie, j'étais en parfaite santé tout à coup, d'un jour à l'autre, je ne pouvais pratiquement plus bouger, comme paralysé. Mon dos, mes jambes, tout me faisait mal, c'était terrible. 2 médecins s'occupaient de moi, ils ont dit, madame, on ne sait pas ce qu'il a. Serait-ce la poliomyélite? On ne sait pas, qu'est-ce qu'il a? Vraiment, j'avais juste à marcher comme ça, comme un vieux grand-père, tout doucement, alors qu'avant je sautais, je courais, j'étais en super forme, et là tout à coup, comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je suis allé dans cette réunion, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, là le prédicateur, un frère canadien-anglais, le frère Richardson, prêchait le plein évangile et tout cela, et j'ai entendu sa prédication, c'était ma première leçon d'anglais. Ça m'est resté, il y avait un mot qui revenait, « Jesus !»« Jesus !» Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jésus. « Ah, Jésus !» Et c'est comme ça que ma foi grandit. Un petit bonhomme de 8 ans et demi, j'ai dit, « Je crois que Jésus peut me guérir. » Les gens s'avançaient pour l'imposition des mains, et moi, je ne me suis pas avancé. Je n'ai pas ressenti ce besoin. Mais je suis reparti à la maison en disant, « Je crois que Jésus peut me guérir. » Eh bien, le lendemain, j'étais complètement guéri. Les douleurs avaient disparu, les forces sont revenues, et j'ai pu faire un tour avec un copain d'école de plusieurs kilomètres dans la campagne, en trottinette, comme ça, et tout ça. Plus de problème, tout était. Donc j'ai vécu des choses fortes. À peu près une année plus tard, j'étais tout seul là, dans une chambre au Danemark, où ma maman était à l'école biblique. Et là aussi, j'avais pas été obéissant, etc. Elle m'avait laissé tout seul dans la chambre ce soir de réunion. Je me suis mis à genoux, j'ai dit « Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi ». Vous savez, Dieu s'approche de nous quand on se fait petit devant lui. Quand on s'humilie, quand on reconnaît ses torts. Et là, Dieu est venu et il a enlevé mon fardeau, il m'a pardonné mes fautes et tout cela. Il m'a rempli d'une grande joie, d'une grande paix. Et j'ai commencé à le louer, à le glorifier, à l'adorer. Ça débordait tout à coup. Mais j'avais plus de mots en français. J'étais un petit bonhomme de 9 ans et demi pour lui dire tout ce qui était sur mon cœur. Mais j'avais besoin de m'exprimer. Et je laissais sortir. J'étais tout seul. Il y avait... Personne ne m'a dit « fais comme ceci, fais comme ceci », aucune pression et tout. C'était spontané, j'aime ça, c'était vraiment spontané. Et tout à coup, le son de ma voix a changé. Je ne comprenais plus ce que je disais, mais ça sortait, ça débordait. Et quand ma maman est rentrée de la réunion vers 10-11 heures du soir, elle a vu son petit bonhomme qui sautait d'un lit à l'autre et qui louait le Seigneur dans des langues qu'il ne comprenait pas, tout cela. J'ai vécu des choses extraordinaires. Le Seigneur m'a appelé à son service, j'avais 10 ans aussi, je vous ai dit ça ce matin, tout ça. Après, j'ai aussi prophétisé, etc. Donc, des bonnes choses qui me sont arrivées. Mais quand j'ai commencé à lire le message de William Branham, ça provoquait quelque chose en moi. Ça m'a secoué. Savez-vous pourquoi? Et j'aimerais parler de ça maintenant. Toute cette petite introduction, c'est pour vous amener à ce que je vais dire maintenant. J'avais accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Hein, vraiment dans la douceur, Jésus qui veut me sauver. Je l'avais accepté comme mon Seigneur aussi, comme maître de ma vie. Il était aussi mon guérisseur. Il était mon ami. Il était déjà beaucoup de choses pour moi. Mais il y avait une chose qui n'était pas encore. Je vais mettre maintenant quelque chose là devant vous pour illustrer cela. Qu'avoue, c'est quoi cette photo? Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est? Tu te souviens? Ouf! C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Sûrement qu'il y aura quelqu'un ici qui pourra t'expliquer ce que c'est. Hein? C'est pas tout à fait ça. Non. Bon, c'est peut-être un petit peu spécial, disons, que on ne connaît pas vraiment. Mais en fait, bon, je l'ai tourné volontairement. Hein, la photo a été prise dans une position verticale. La photo originale était dans ce sens-là, et cette photo a paru dans le magazine américain Life, hein, comme étant une nuée, un nuage surnaturel. Il n'y avait point d'explication scientifique. Le docteur McDonald's, qui était un incroyant professeur de, je sais pas de quoi, disons, enfin tous les phénomènes et tout cela à l'université de Tucson en Arizona. Il a regardé toutes les mesures, toutes les photos prises de ce nuage. Il était à, je crois, 20 ou 30 kilomètres, 30 000 mètres de haut. Il a dit, mais à cette altitude-là, il n'y a pas d'humidité pour former un nuage. Donc, scientifiquement, ce nuage ne devrait pas exister. Mais les photos sont là prises par n'importe qui, de commandés mortels, de plusieurs endroits. Et on a des photos, des preuves. Le nuage est là. On n'a pas d'explication scientifique. Et quelqu'un a montré, bon c'est une photo en couleur, je ne l'ai pas ici avec moi, la photo du magazine Life, quelqu'un a montré ça à Frère Branham, c'était en 1963, et quand Frère Branham a regardé, c'était en première page du journal, une voix lui a dit, tourne la photo. Il a tourné la photo comme ça. Et ici, eh bien, on voit très légèrement, il y a comme une ombre pour deux yeux, et tout ça, un peu une bouche, etc. Et puis, il a dit à un frère théologien, il a dit, frère, mais d'après toi, c'est quoi ça? Puis il a dit, oh, mais ça peut être la tête de Jésus glorifié ou quelque chose comme ça. Mais lui, il n'avait pas la main dans son cœur. Puis après, le Seigneur l'a montré que c'était les cheveux de la tête de Christ tel qu'il est présenté dans Apocalypse chapitre 1er. Donc je remets la photo ici en haut. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible maintenant. On va lire quelques passages dans l'Écriture, s'il vous plaît. J'aimerais que vous preniez avec moi dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er, pour commencer. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Je crois que c'était l'année passée, je lisais ce passage. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, pas trois trônes, non, un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône, était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Après, verset 4, autour du trône, etc. Mais verset 1er, je reviens. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici ». Seigneur, veuille bénir la lecture de ta parole est la vérité. Seigneur, aide-nous à comprendre ces paroles prophétiques qui sont dans la Bible et de voir comment tu accomplis ces paroles dans notre temps. Que ça soit un encouragement et aussi un signe pour nous, que nous sommes près du but et que tu agis d'une façon particulière à cause du temps dans lequel nous vivons maintenant. Père, je te prie de nous bénir encore en cette soirée. Bénis les bien-aimés. Merci pour leur attention, leur écoute et que ces paroles puissent leur faire du bien comme elles me font du bien, moi aussi. Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, si il y a un besoin quelconque ou si on sent que tu nous attires plus près de toi, Seigneur, que nous puissions tous volontairement, consciemment, bien nous donner à toi, nous abandonner entre tes mains pour vivre des expériences encore plus profondes, plus puissante avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas simplement, comme on dit, nous endormir sur nos lauriers, mais nous croyons qu'avec toi, chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est une nouvelle occasion d'expérimenter quelque chose de puissant avec toi. Père, eh bien, que ces réunions que nous avons ici ne soient pas simplement des réunions d'enseignement, de partage ou comme ça, mais qu'au niveau individuel, que ça puisse nous conduire à quelque chose d'encore de plus fort, de plus solide, de plus vrai avec toi. Seigneur, qui permette que lorsque nous quitterons ce lieu ou après ce week-end, eh bien que nous sentions que nous avons grandi, nous avons progressé avec toi. Père, tu connais les besoins de chacun, nous sommes tous dans des situations différentes, mais tu connais chacun, tu aimes chacun. Eh bien, Seigneur, aide-nous, que quelque chose de bon puisse nous arriver, qu'il soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, prenez place, s'il vous plaît. Dans un des messages de la série Révélation, sauf erreur, Révélation de Jésus-Christ, Frère Branham reprend cela et puis dit, mais Jean, qui a écrit l'Apocalypse, représentait l'épouse. Et quand il a entendu cette voix qui lui a dit, monte ici, c'était un type de l'épouse qui était enlevée. Ça parlait de l'enlèvement de l'épouse. Maintenant, monte ici, c'est-à-dire, viens, monte au ciel, viens dans cette autre dimension. Et quand j'ai lu ce passage-là, il a dit la première voix que j'avais entendue. Puis je dis, mais quand Jean a-t-il entendu cette voix auparavant? Alors j'ai relu tout le chapitre 3, il n'était pas question de cette voix. J'ai relu tout le chapitre 2, il n'était pas question de cette voix. Et je me suis retrouvé au chapitre 1er. Et là, effectivement, il est parlé d'une voix. Et Frère Branham fait aussi référence à ce chapitre 1er. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 1er. Et depuis le verset 10, s'il vous plaît. Apocalypse 1, 10. Jean dit ceci, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Regardez le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et Dieu a montré à Frère Branham, eh bien, tu vois cette nuée, ce nuage, eh bien, toute cet anneau circulaire, blanc comme cela, eh bien, c'est l'accomplissement de ce passage-là. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et de nouveau, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Si vous êtes tenu une fois près d'une chute, hein, il y a des chutes dans différents pays, mais ça fait un brouhaha, c'est vraiment un bruit intense. Eh bien, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Ça, c'est le symbole que vous avez là, la parole de Dieu. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17, Jean dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Vous connaissez ce passage, ça, sans doute. Mais laissez-moi vous poser une question maintenant. pour quelle raison l'apôtre Jean, hein, le disciple de l'amour qui a écrit l'évangile de Jean, pourquoi Jean est tombé comme mort quand il a vu cette manifestation de Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a pareillement impressionné? Pourtant, ce n'était pas une femmelette, hein, c'était un homme, hein, peut-être plus jeune que d'autres apôtres, mais c'était un homme. Et quand il a vu cette manifestation, qu'il a vu ce fils d'homme et toute cette description, tous ses attributs, toutes ces choses, ouf, il a versé, on peut dire, comme mort, évanoui. Hop, il n'arrivait plus à supporter. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Combien peuvent me dire pourquoi? Oui, Nathanaël? Il était aveuglé. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas tout à fait ça. Hein? Mais c'est bien que tu participes comme ça, c'est très bien. Disons qu'il a bien vu, mais ça l'a tellement impressionné qu'il a perdu toute force et il s'est écroulé. Mais pourquoi? Si vous avez lu un petit peu le message, les actes de l'Église et tout ça, il en parle, oui? Voilà, il priait tellement, c'est vrai qu'il parlait, que son visage resplendissait et tout, mais c'est bien, mais encore plus que ça. Encore plus. Oui, Noémie? Parce qu'il avait eu peur. C'est ça que tu as dit? Très juste. Il avait eu peur, mais de quoi? Oui? De Dieu, oui, c'est juste, mais sous quelle forme? Oui, Lucas? Il a eu peur de... ses yeux, pour ses yeux. Bon, ça aurait pu, effectivement, comme Paul aussi, qu'il a vu cette lumière éclatante, il est devenu aveugle pendant un certain temps. Donc, c'est une bonne réponse, mais c'est encore pas tout à fait ça. Benjamin, je crois que c'est ça. Ah, on approche. On approche. Et qui a le droit de punir? tu sais, c'est pas le diable qui nous punit, c'est... Non, le diable veut nous faire du mal, il fait tout pour nous faire du mal, mais celui qui peut punir, celui qui peut condamner, c'est un juge. Et là, Jean s'est retrouvé en face de son juge. Pourquoi les cheveux blancs? Eh bien, peut-être que vous savez que, pour comprendre cela, que les cheveux blancs, chez une personne, c'est un signe bon, de vieillesse, mais en même temps de maturité. Et autrefois, eh bien, c'était les personnes plus âgées ou plus expérimentées, on voit ça en Israël, dans la Bible et tout ça, qui fonctionnaient comme juges aux portes de la ville. Quand les gens avaient un différend, qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, eh bien, ils allaient trouver un ancien ou un vieillard. On trouve ça encore peut-être des fois un peu en Afrique, où il y a le respect des personnes âgées, peut-être plus qu'ici, pour dire, eh bien, voilà, on n'arrive pas à s'entendre dans un conflit, vous avez de l'expérience, aidez-nous à départager, à trancher. Eh bien, on a retrouvé ça aussi chez les juges anglais, lorsqu'en Angleterre, un juge allait dans la salle de tribunal pour montrer qu'il avait ce pouvoir de juger et aussi de condamner quelqu'un qui avait fauté, il mettait une perruque sur la tête, avec des cheveux blancs. C'est une perruque, pas ses vrais cheveux. Peut-être qu'il n'avait même pas beaucoup de cheveux blancs, mais pour montrer son autorité, hein, le pouvoir qu'il avait sur les personnes qui comparaissaient devant lui, eh bien, le ou les juges revêtaient une perruque blanche qui était là pour montrer sa fonction de juge et d'autorité. Et eh bien là, Jean a vu devant lui le Fils d'homme. Mais on sait qui c'est toujours le même, il n'y en a qu'un, Jésus-Christ, mais maintenant avec un masque, ou avec une perruque, enfin avec les attributs d'un juge. Il m'est arrivé deux ou trois fois d'aller dans une salle de tribunal à Lausanne en Suisse. Une fois, c'était un monsieur grec qui avait fait je ne sais pas quoi, il ne comprenait pas le français, puis je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'à moi. On m'a donné un coup de téléphone, dire « Monsieur, pourriez-vous venir servir de traducteur pour cette personne qui doit comparer devant le juge ?» Je dis « Bon, ben, si je peux rendre service, je crois qu'après ils m'ont donné deux, trois petits sous et tout ça. » Bon, ben, je ne connaissais personne, hein, ni cet homme, ni rien du tout. J'étais juste comme traducteur. C'était la salle de Montbenon, tu sais, là, près de Saint-François, comme ça. Donc, ce n'était pas le tribunal fédéral, c'était le tribunal cantonal. Mais vous entrez là-dedans, c'est des couloirs, des plafonds hauts, et puis il y a tout qui résonne. Après, vous entrez dans la salle de tribunal, puis c'est haut, c'est impressionnant, c'est solennel. Et vous êtes là-dedans. Heureusement que je n'étais pas l'accusé, là, parce que déjà, vous êtes saisi. Mais bon, j'étais juste comme traducteur. Après, les juges viennent et tout ça. Et vous ne parlez pas n'importe comment. Vous ne parlez que quand on vous donne la parole. Hein. Après, vous devez juste écouter. Vous devez faire exactement ce qu'on vous dit de faire. Vraiment, vous ne faites pas les malins. Tout est impressionnant. En tout cas pour les gens qui ne sont pas habitués à cela. Une autre fois, j'ai dû malheureusement aller aussi comme témoin dans une affaire de divorce aussi, où des personnes m'avaient demandé de parler aussi en leur faveur. Mais chaque fois, c'est un cadre difficile comme cela. Mais maintenant, dans notre temps, la Bible dit « le juge se tient à la porte ». Vous connaissez certainement ces passages. Peut-être juste vous donner les références pour ceux qui aimeraient juste la confirmation. C'est Jacques, chapitre 5, verset 9. Jacques 5, 9. Le juge se tient à la porte. Ou dans Hébreux, chapitre 12, verset 22, où il est dit que nous sommes venus devant le juge de tous, etc. Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, le jugement commence par la maison de Dieu. Donc, jugement et tout cela. Et quand les gens viennent à l'église des fois, et que le prédicateur, le pasteur, eh bien, il doit dire certaines choses de la parole de Dieu, hein, disons des vérités de la Bible, souvent il y a des gens après le service qui viennent vers lui en disant, « frère, mais pourquoi est-ce que tu m'as jugé ce matin? Tu n'as pas le droit de me juger. J'étais mal à l'aise. Tu as révélé mes fautes ou mes péchés devant tout le monde. » Bon, il n'a pas donné peut-être de nom, mais comme tu as parlé, mais tout le monde a dû savoir que c'est de moi que tu parlais, tout cela. Mais tu sais, tu m'as vraiment embarrassé. Si tu n'arrêtes pas, moi, je quitte l'église et tout cela. Et des fois, le pasteur ne savait rien du tout de la condition de la personne, mais Dieu le savait. Mais c'est vrai que quand on vient à l'église, on vient dans un endroit où Dieu nous juge. Mais savez-vous que c'est quelque chose que les gens n'apprécient pas en général ? Non, on veut entendre parler de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu, de la gentillesse de Dieu, des bénédictions de Dieu, tout cela. Mais tout à coup, quand on vient à l'église et puis que la parole, Hébreux 4, 12, commence à juger, le terme grec c'est kritikos, à critiquer les pensées, les intentions de notre cœur, c'est vrai que chacun d'entre nous, moi aussi, ça me remplit de crainte, oh là là, là là, mais on se sent tout petit, on se sent mal à l'aise et tout cela, quand on est jugé. Mais j'aimerais vous dire ceci, Dieu m'a montré cela. Peut-être on pourrait prendre 1 Corinthiens chapitre 11 pour que vous compreniez bien l'importance de cette fonction-là de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Il est dit, si nous nous jugions nous-mêmes, c'est le passage sur la Sainte Cène, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés ou disciplinés par le Seigneur. Donc, il s'adresse à des chrétiens, des gens dans l'église, qui viennent à l'église, tout ça, mais des fois, on fait tous des faux pas, on a tous des moments de faiblesse et tout cela. Et là, l'apôtre Paul dit, eh bien, que dans l'église, il y a un jugement qui est exercé. Mais retenez ou remarquez bien la fin du verset 32. Il est dit, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Avez-vous remarqué cela? Il y a une grande différence entre un jugement et une condamnation. Remarquez bien ceci. Un jugement n'est pas une condamnation. Un jugement, c'est simplement mettre en évidence une réalité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une critique, un jugement, c'est une déclaration qui est faite sur une situation ou sur un comportement, bon ou mauvais, c'est un jugement. Mais ça ne veut pas dire que c'est une condamnation. La Bible dit aussi, vous le savez, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas de jugement. Vous me direz, mais à quoi ça sert tout ça? Alors laissez-moi vous donner un petit exemple qui m'est venu à l'esprit. dans une fabrique, disons, de voitures. Il y a des grandes marques de voitures en France, en Allemagne et tout cela. Il y a des chaînes de montage. Mercedes, Peugeot, bref, toutes les marques. Et cette voiture part d'un bout de la chaîne et puis elle passe par plusieurs étapes. Il y a des étapes qui sont automatisées, d'autres, il y a une intervention humaine. Donc chacun est censé faire un travail spécifique sur cette voiture. Et il y a des endroits où on fait de la soudure, des endroits où on pose quelque chose, où on installe un appareil, où on met telle pièce ou une porte ou des choses comme ça, ou un siège. Enfin, au cours de toute cette chaîne de montage, chacun a une tâche déterminée. Mais qu'est-ce qui se passe en bout de chaîne? Savez-vous ce qui se passe en bout de chaîne? Il y a un contrôle de qualité. Vrai ou faux? Oui. Il y a quelqu'un qui doit vraiment être à son affaire, parce qu'il a un poste très important. C'est un ouvrier comme les autres, mais sa fonction, c'est de regarder cette voiture sous toutes les coutures. Est-ce que pendant le travail, est-ce qu'il y a eu quelques griffures sur la peinture? Est-ce que peut-être il y a un boulon qui n'est pas bien serré? Est-ce que, disons, il y a peut-être un accessoire qui manque et tout ça? Il doit avoir un œil, on pourrait dire d'aigle, exercé, pour vraiment voir est-ce que vraiment tout est bien. Il regarde dessus, dessous, partout. Un contrôle de qualité. Et s'il voit la moindre petite chose, oulala, ça, il y a quelque chose qui ne joue pas, il manque cette pièce, ou comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la voiture à la chaîne de montage en disant « Réparez-moi ça, mettez-moi ça en ordre. » Cette voiture ne quittera pas l'usine tant que tout n'est pas parfaitement en ordre. Est-ce qu'il est beaucoup apprécié, cet homme-là? Peut-être pas tellement. « Eh, mais écoute, tu aurais bien pu laisser passer comme ça, écoute, tu me redonnes du travail de plus, écoute, sois un peu cool et tout ça, tu sais, tu me fais recommencer mon travail et tout. » Oui, il aurait pu le laisser passer, mais s'il l'avait laissé passer et que la voiture quittait l'usine, était mise en vente et que quelque part, un client veuille acheter cette voiture et qu'il trouve un défaut, eh bien ça va salir, ça va ternir la réputation de cette marque. Je prends l'exemple de Mercedes, qui est pourtant une bonne marque solide allemande et tout. Ils ont sorti une voiture A quelque chose il y a quelques années en arrière, une mini Mercedes. Il y a quelque chose qui ne jouait pas et elle ne tenait pas bien la route et tout cela. Ils ont de tous les faire revenir. Dernièrement, vous avez peut-être entendu parler que la marque Toyota, qui est un des gros fabricants japonais, un des plus grands du monde et tout cela, eh bien, ils ont laissé passer un problème avec la pédale d'accélérateur. Combien ont entendu parler de ça? Hein? Toyota, une grande marque. Ils se sont permis de pas tenir compte des remarques qu'on leur faisait concernant un problème où la pédale d'accélérateur restait bloquée. Et il y a eu des accidents à cause de cela et tout ça, et finalement ça fait un grand scandale. Ils ont dû maintenant dépenser des millions pour rapatrier ces voitures, pour réparer tout ça. C'est pas seulement réparer, c'est que maintenant les gens ont l'idée que Toyota n'est pas aussi bon qu'on le pensait. C'est venu ternir l'image de la marque. Mais s'il y a eu un contrôle de qualité efficace en bout de chaîne, ça ne devait pas passer, ça. Donc, celui qui est là au contrôle de qualité, il ne cherche pas à ennuyer ses collègues, à leur donner du travail supplémentaire. Il protège l'entreprise. Il protège le nom de l'entreprise. Il protège la marque. Il protège le gagne-pain de tous ses collègues. Vrai ou faux? Peut-être qu'on ne l'aime pas beaucoup en disant « Hey, mais toi, tu es vraiment un légaliste, tu es vraiment un pinailleur, tu nous ennuies et oh là là, mais si on pouvait se débarrasser de toi. » Mais les gens ne réfléchissent pas. Cet homme, eh bien, il est responsable de la notoriété ou de la publicité qui est faite à leur compagnie. Et si les affaires marchent bien, eh bien, ils ont tous leur salaire. Ils ont peut-être même une augmentation. Mais si tout à coup les gens perdent confiance dans la marque parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été remarqués, eh bien, tous auront des problèmes. Ils sont peut-être licenciés, chômage technique, des problèmes comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas satisfaits du produit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eh bien, nous sommes à deux doigts de l'enlèvement maintenant. Ça peut arriver d'un instant à l'autre. Et on pourrait prendre les passages de la Bible que vous connaissez, où il est parlé d'une église, d'une épouse irrépréhensible, irréprochable, sans tache, sans ride, sainte, parfaite et tout cela. On parle de qui? De vous et de moi. Et Dieu est en train de faire son travail en nous maintenant pour nous amener à ce niveau-là. Ce n'est pas une perfection fabriquée par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. C'est Dieu qui agit en chacun d'entre nous et qui travaille, qui modèle. Combien connaissent ce que la Bible dit concernant le potier et l'argile? Ça, c'est une relation. Nous sommes l'argile, il est le potier. La Bible ne dit-elle pas que si le potier voit qu'il n'est pas satisfait du vase, qu'est-ce qu'il fait? Il le remet sur le tour, il le casse et il recommence. Et c'est là où des fois, on se plaint, on gémit, on dit « Ah, mais Seigneur, mais pourtant, ça n'allait quand même pas trop mal. Puis maintenant, voilà, tu me brises, tu me casses et tout ça, mais je souffre, Seigneur. » Est-ce qu'on respecte Jésus-Christ comme notre potier? On dit « Seigneur, si toi, tu n'es pas satisfait de ma vie, je te permets de me casser, de me briser, de me remodeler pour que je puisse devenir à ton image. » Mais certains n'acceptent pas ça, ils disent simplement « Tu me fais comme ça, tu ne me fais pas trop souffrir et puis ça va bien comme ça. » Non, si lui, et c'est un Dieu de perfection, s'il ne voit pas en nous le reflet de lui-même, de sa nature, de son caractère, il n'est pas satisfait. Et il dira « Eh bien, je recommence jusqu'à ce que j'y arrive. » Mais ce n'est pas très agréable, mais il le fait pour notre bien et pour sa gloire. Eh bien, alors qu'on est si près du retour de Jésus-Christ, frères et sœurs, il y a bien des gens qui seront surpris à ce moment-là. Mais on dirait que l'enlèvement a déjà eu lieu, mais tout la grande tribulation qui commence et toutes ces choses, mais moi j'attendais qu'ils me prennent. Et tu n'as pas été pris. Pourquoi? Eh bien, tu n'étais pas conforme aux normes divines. Tu n'avais pas atteint le niveau de qualité que Dieu voulait en toi. Peut-être tu t'es révolté, tu t'es rebellé, tu as dit « Oh non, mais il ne faut pas être trop exigeant, sois un peu plus cool avec moi, j'aimerais quand même faire ceci, faire cela et tout ça, ça me plaît un peu plus. » Bon, il te laisse faire. Mais si au bout de la route, eh bien, tu ne corresponds pas exactement aux normes de la parole de Dieu, de la Bible, qui correspondent à ses goûts, à lui, à son plaisir, à lui, à ses exigences, à lui, eh bien, tu restes pour les pleurs, les grincements de dents qui sont annoncés. Donc, frères et sœurs, la Bible parle dans Paul, nous avons reçu, il dit, une vocation céleste, ou on pourrait traduire un appel élevé. Ce n'est pas juste l'appel au salut que beaucoup reçoivent. J'accepte Jésus, merci Seigneur, tu as pardonné mes péchés, tu as expié pour moi. Tout ça, c'est bien. Mais il y a des gens qui reçoivent un appel élevé. C'est pour atteindre un autre niveau. C'est de faire partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment du sérieux. Ce n'est pas n'importe quelle église, n'importe quelle sorte de croyant. Ils doivent vraiment répondre au goût du Seigneur Jésus. Ils doivent... Nous devons faire le bonheur, le plaisir du Seigneur Jésus. C'est ça qu'il souhaite pour nous. Donc, avant d'être enlevé, d'après Apocalypse 4 et Apocalypse 1, avant d'être enlevé, il faut passer devant le juge. Et je peux vous dire une chose. Je remercie Dieu de cette révélation-là. J'ai besoin d'un juge. Et je dis, Seigneur, tous les jours, Seigneur, juge-moi. Juge-moi, juge-moi. S'il y a quelque chose dans mes paroles, quelque chose dans mes actions, quelque chose dans mes pensées qui ne te plaît pas vraiment. Peut-être personne ne voit rien, personne ne sait rien. Je peux le cacher à tout le monde. Vous me direz, mais le frère François, c'est quand même quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que vous en savez? Je ne suis pas un hypocrite. Je peux vous faire croire que je suis peut-être un homme de Dieu, mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous connaissez vraiment l'intérieur de mon cœur? Personne ne connaît. Vous, je peux vous tromper, mais pas Dieu. C'est pour ça que je dis, Seigneur, peu importe ce que les gens disent, certains disent, ah, c'est formidable, d'autres disent, je ne sais pas très bien pour lui. Mais ça, c'est la vie des gens. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu penses de moi? Comment est-ce que toi, tu me vois? Seigneur, je ne peux rien te cacher. Je suis comme un livre ouvert devant toi. L'intérieur, l'extérieur, tu connais tout. Seigneur, est-ce que ma vie en entier, comme Paul le dit, votre corps, votre esprit et votre âme, tout l'être humain, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que je réjouis ton cœur? Je fais la joie de ton cœur, Seigneur? Est-ce que je te plais comme je suis? Si tu vois une chose, Seigneur, qui ne te plaît pas, montre-le-moi. Juge-moi, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il me condamne. Non, il ne veut pas me rejeter parce qu'il m'aime. Mais parce qu'il m'aime, eh bien, il me montre là où ça ne va pas dans ma vie. Et je crois de tout mon cœur que c'est ce qui est en train d'arriver sur la terre maintenant. Dieu a montré dans le ciel, en 63, ce qu'il voulait faire sur la terre. Et maintenant, partout le message de l'heure s'en va. Il fait beaucoup de choses, mais l'une des choses qu'il fait, dans le monde entier, il juge les gens. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu m'a jugé, un jeune homme de 18 ans, j'aimais le Seigneur, j'avais mes hauts, mes bas, tout cela, et Dieu m'a jugé. On commence à lire les 7 sur les 7 âges. Et j'ai compris une chose à ce moment-là. Si Jésus revient aujourd'hui, j'ai parlé en langue. S'il revient aujourd'hui, il m'a appelé au ministère. S'il revient aujourd'hui, il m'a guéri miraculeusement. S'il revient aujourd'hui, j'ai prophétisé. S'il revient aujourd'hui, François, tu n'es pas prêt. Jésus n'a-t-il pas dit, certains viendront en disant, Seigneur, n'ai-je pas. Il dira, mais je ne vous connais pas. Il n'était pas prêt. Et quand j'ai compris cela, moi, jeune homme, ça m'a secoué. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai besoin de ce message, mais où je peux trouver ce message? Et c'est comme ça qu'à l'âge de 20 ans, je travaillais dans une banque américaine à Genève. J'aurais pu certainement avoir un beau poste si je continuais, je m'engageais à fond là-dedans. Mais j'ai dit non, c'est trop important maintenant. Il faut que j'aille à la source. Il n'y a rien en français pratiquement. Eh bien, j'irai aux États-Unis. Je voulais aller à Jeffersonville, ça n'a pas marché. J'ai pu aller à Tucson, chez le frère Perry Green qui a connu frère Branham. J'ai dit, il faut que je connaisse ce message. Il faut que je sache ce que Dieu a dit par ce prophète. J'ai besoin de cela. Et ça crée une faim, une soif, désir de Seigneur, mais je veux savoir, mais qu'est-ce qui me manque? Seigneur, il me manque quelque chose dans ma consécration. Seigneur, il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de savoir, montre-le-moi, Seigneur. Dis-moi la vérité, Seigneur. Montre-moi tel que je suis dans le miroir de ta parole. Et j'ai laissé mon travail, j'ai donné ma démission, je suis parti là-bas pendant 9 mois et j'ai commencé à écouter les bandes. J'ai écouté les prédications de Frère Green, d'autres prédicateurs et ça commence à travailler en moi. Et dans plusieurs domaines de ma vie, je n'avais pas la victoire. J'étais un chrétien, mais je n'avais pas la victoire. Peut-être ça peut vous arriver aussi. Même au niveau de mes pensées, je n'arrivais pas à avoir la maîtrise de mes pensées vagabondaient, toutes sortes de choses impures. Et tout ça. C'est pas bon ça, Dieu n'aime pas cela et tout cela. Mais comment je peux m'en débarrasser? Et j'ai expérimenté ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 ou 5, quelque chose comme cela, où il est dit que Christ nous lave par le lavage d'eau, par la parole. Vous connaissez ce passage-là? Eh bien, tout ce qu'il fallait faire, c'est de commencer à manger la parole. Manger la parole, pas besoin de raisonner, pas besoin de disséquer, pas besoin... Non, simplement, tu manges. Les sœurs nous ont préparé des bons repas. Je n'ai pas commencé à dire, attends, voir. Là-dedans, il y a tant de protéines, tant de sels minéraux, tant de sel, tant de sucre, tant de ceci. Non, je n'ai pas disséqué la nourriture que vous, sœurs, vous avez préparée. C'était le moment du repas, j'avais faim, j'ai mangé de bon cœur. Et c'était bon. Eh bien, faisons cela avec la parole de Dieu. Faisons ça avec le message. Dieu l'a confirmé, c'est un message biblique. Mangeons cette parole. Comme Jérémie le disait, Dieu, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et on mange. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'ai expérimenté cela, j'avais 20 ans. Juste, ça, c'est mon expérience. J'ai commencé à manger cette parole. Et tout à coup, je me suis dit, mais tiens, il me semble que ça va mieux au niveau de mes pensées. Je n'ai fait aucun effort particulier. Je ne me suis pas senti poussé, contraint à me mortifier, quoi que ce soit. Non, j'ai juste mangé la parole, mangé ce message. Et la parole m'a sanctifié, la parole m'a lavé à l'intérieur. Ce n'est pas mon travail, c'est son travail, le travail de la parole. Et c'est pour ça que j'aime cette parole, que j'écoute la parole. Et je dis, Seigneur, juge-moi par ta parole. Vraiment, mets le doigt à l'endroit qui fait mal. Mets l'endroit là où c'est un point sensible. Seigneur, et j'ai aussi des faiblesses que vous ne connaissez peut-être pas, mais j'ai aussi mes faiblesses. Mais Seigneur, montre-le-moi. Mets ton doigt là. Ça fait peut-être mal, peut-être je vais pas tellement apprécier, mais c'est pour mon bien. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai dit ceci, Dieu change de forme, il change de masque. Dieu, Seigneur, Sauveur, Ami, tout ça. Mais c'est toujours le même Dieu. Le masque change. Mais quand je vous parlais ce matin de Jésus comme ami, tout le monde veut ce Jésus comme ami, le Jésus comme sauveur. Frère m'a dit, eh bien, les gens acceptent un sauveur, mais c'est plus difficile d'accepter un Seigneur. Parce que le sauveur vient, très humblement, il vient vers toi, voudrais-tu le salut pour que tu sois sauvé? Tu dis oui, tu dis non, il ne t'impose rien du tout, il ne vient pas en disant, je veux que tu l'acceptes. Non, voilà, tu vas vers la mort maintenant, tu es jeune, d'autres personnes comme ça. Mais l'issue de la vie terrestre, pour tous, c'est la mort. Et maintenant, Jésus propose la vie. La vie est pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et Jésus nous dit, voudrais-tu la vie? Voudrais-tu le pardon de tes péchés? J'ai fait une œuvre pour toi parce que je t'aime. Veux-tu l'accepter? Le sauveur. Il n'est pas contraignant, il vient d'une façon très humble. Si on l'accepte, une œuvre commence en nous de transformation, de purification. Si on dit, ça ne m'intéresse pas, on perd cela. Mais l'étape suivante, c'est qu'après, il dit maintenant, je suis ton sauveur. Me permets-tu d'être ton Seigneur? Mais ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire qu'il a, nous sommes sa propriété et que nous sommes aussi sous sa direction. Ça veut dire que c'est lui qui a le droit de diriger notre vie. C'est pas « je veux faire ceci et je ne veux pas faire cela, je veux, je ne veux pas ». Non, c'est plus ça. C'est maintenant « Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour moi ?» Comme Jésus l'a dit dans Gethsémané, « pas ma volonté, ta volonté ». C'est quand il devient Seigneur. Et ça, c'est plus difficile. Vous savez, des fois, on chante « Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. » Que Jésus est Seigneur. Il y a beaucoup de beaux chants. Ô Seigneur, ô Seigneur. Vous savez que Jésus a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. S'il est ton Seigneur, s'il y a une relation entre toi et lui comme Seigneur, c'est-à-dire supérieur à toi, eh bien ça veut dire, tu dis pas, je veux faire ceci. Tu te mets sur tes genoux, tu dis, Seigneur, j'aimerais faire ça, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que c'est vraiment ta volonté parfaite? À ce moment-là, il devient le Seigneur de ta vie. À ce moment-là, que tu dis « Seigneur », ce ne sont pas des paroles vaines, ce sont des paroles qui ont un sens, parce que ta vie prouve qu'il est vraiment ton Seigneur. Vous comprenez cela? Donc là, devant le juge, et frères et sœurs, si ce soir je me tiens devant le juge, j'ai beau être prédicateur, de connaître Jésus depuis une cinquantaine d'années, si je me tiens devant le juge, et Christ, il est la parole, il trouvera certainement quelque chose qui ne lui plaît pas dans ma vie. C'est vrai. Lui verra quelque chose. Vous me direz, mais c'est terrible, mais après, on a un poids de culpabilité, et puis, comment est-ce qu'on peut être heureux? Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant si toujours on est là en disant, mais il me juge, et puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas, qui ne va pas. Et je vais vous dire quelque chose qui est merveilleux. Si vous avez lu les messages intitulés « Le signe », combien bien connaissez ces messages, « Le signe », ça, c'est un bon message. Le signe, c'est le Saint-Esprit. Et dans ce message, Frère Branham dit que celui qui nous juge, après nous avoir jugé, dit, ah, mais il m'a jugé, mais je suis fichu, c'est perdu maintenant. Je ne suis pas parfait, je ne serai pas enlevé. Il a trouvé un défaut en moi, il a trouvé quelque chose qui ne lui plaisait pas. Bon, ben, maintenant, c'est fini, moi, de toute façon, je laisse tout tomber. Non, non, il y a une étape suivante. D'abord, le juge te juge, me juge. Et une fois qu'il nous a jugés, si on accepte son jugement, on dit « Seigneur, c'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai, là, la pensée n'était pas bonne, ou l'action ou la réaction n'était pas bonne. Seigneur, je regrette, pardonne-moi, Seigneur. » On se repent, on s'humilie. Savez-vous ce qui se passe? Le juge change de masque. Il change de masque et il apparaît sous un autre masque, d'après la Bible. Et il devient notre avocat. Donc, il était notre juge impressionnant, puis après, il descend à notre niveau. Il devient notre avocat. Il vient plaider notre faveur sur la base de notre confession. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous avons un avocat auprès du Père. Oh, frères et sœurs, je dis, oh Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, je ne voulais pas t'offenser, je ne voulais pas te désobéir. Seigneur, je regrette cela. Seigneur, pardonne-moi, on s'humilie. On ne peut pas se racheter tout seul, on ne peut pas expier nous-mêmes notre péché. Alors le juge change de masque, il devient notre avocat. Et maintenant il se présente comme ça, en présence de cette autre fonction du père du juge. Il dit, maintenant regarde son attitude. Il s'est repenti, il s'est humilié, il a reconnu ses torts et tout cela. Je prends sa défense. Maintenant je prends sa défense et je plaide en sa faveur. Et je peux vous dire une chose, Jésus est le meilleur des avocats que vous puissiez avoir. C'est un avocat qui obtiendra le gain de cause. Et s'il y a maintenant, à cause de votre faute, de votre péché, un prix à payer en disant maintenant, il doit payer, il doit être puni pour cela, il change de masque et dit, je suis son sacrifice, je suis son agneau, charge-moi. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on veut de plus? N'ayez pas peur du juge, vous devez connaître sa nature. Il a le masque du juge, mais la nature n'a pas changé. Il t'aime autant que lorsqu'il est ton ami, que lorsqu'il est ton conseiller, que lorsqu'il est ton sacrifice. La nature ne change pas. C'est juste le masque qui peut faire peur. Mais sa nature, c'est toujours une nature d'amour, de douceur, d'humilité, de justice, de sainteté. La nature ne change pas, quel que soit le masque. C'est pour ça que j'ai compris ça, je dis, Seigneur, c'est vrai que je suis dans la crainte, que je suis devant le juge et tout cela, mais je n'ai pas peur de lui. Il est mon ami, il me veut du bien, il ne veut pas me faire du mal, il veut simplement que je sois comme lui, que j'ai le même niveau de consécration, de sainteté, de perfection que lui, et il fait le travail nécessaire pour que j'y arrive. Il est mon ami, il est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas peur de lui, même s'il se présente sous la forme d'un juge. Et si j'ai besoin d'un avocat, il est mon avocat. Si j'ai besoin de payer un prix, il va le payer pour moi. Frères et sœurs, j'aime ce Jésus-là. Vous savez, bien des gens, ils choisissent les rôles ou les fonctions du Seigneur qu'ils préfèrent, les plus faciles. S'il n'y a pas de contraintes, s'il peut faire tout ce qu'il veut, de toute façon, je crois au Jésus, il est mort sur la croix pour moi, tout cela. Puis on vit n'importe comment, tout le monde aime ça. Garder sa liberté, faire ce qu'on veut, mais de toute façon, Jésus est mort pour moi, il a expié mes péchés, mes frères m'a dit, on fait de la grâce une disgrâce. Quand on pêche volontairement, l'apôtre Paul dit dans Hébreux 10, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si maintenant on méprise l'agneau, comme certains le font, hein, qu'on foule au pied le sang de l'alliance et toutes ces choses-là, frères et sœurs, Dieu est descendu jusque-là, il est devenu un agneau, il est allé même plus bas encore. Il est allé en enfer à notre place. C'est ce que la Bible nous dit, au séjour des morts. Là où nous aurions dû aller, il est allé pour nous, pour que nous n'ayons pas à y aller. Il était prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ressorti triomphe en disant maintenant, regardez, n'est-ce pas ce qu'il a dit à Jean, là, qui était tombé par terre, là, quand on l'a vu tout au départ. Jean était complètement paralysé, tétanisé devant le juge et tout cela. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Écoutez ces paroles, elles sont pour nous aussi ce soir. Verset 17, Jean, Apocalypse 1, 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il, le Seigneur, posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Peut-être que j'ai surpris, ou peut-être dérangé, ou peut-être agacé certains en parlant du juge ce soir, mais le juge a dit à Jean, ne crains point. Et le même juge, le Seigneur Jésus-Christ, comme juge, nous dit à chacun, n'aie pas peur de moi, je ne veux pas ton mal, je ne veux pas ta destruction, je veux ton bien, ton bonheur et ma gloire. Ne crains rien. Je suis le premier et le dernier est le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable dit, ah, mais celui-là, je vais l'attraper. Je vais le faire mourir. Je vais l'envoyer à la mort, dans la tombe, en enfer et tout cela. Frères et sœurs, vous pouvez regarder le diable dans Satan. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Même si un jour je dois mourir pour ma foi, même si je dois aller au séjour des morts et tout cela, ça ne me fait rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. Mon meilleur ami, il a les clés de la prison. Si je dois aller en prison, je n'ai pas peur de la prison. Si mon ami intime, il a les clés de la porte de ma prison. Et quand il le désire, il vient ouvrir les portes, il me dit, François, sors, tu es libre. Ça, c'est le Jésus dans lequel je crois. Et je l'aime, ce Seigneur Jésus. Est-ce que tu l'aimes ce soir? Vous avez un petit peu compris ce que je dis là? Hein, différentes fonctions, différents rôles et tout cela, mais et personnellement, j'aimerais l'accepter dans la totalité, dans la plénitude de ses attributs. Hein. Vraiment, il y a encore certainement beaucoup à découvrir, et je pourrais vous parler encore de plusieurs d'entre eux, mais tout ça, ça prend pas mal de temps. J'aimerais peut-être maintenant changer un petit peu de sujet, toujours le même thème, mais changer un petit peu de sujet. Maintenant, je ne veux pas vous imposer encore plus. C'est le pasteur, c'est vous qui pouvez me dire. Je dirai ce que je peux dire dans le laps de temps qui m'est imparti, mais soit ce soir, soit demain. Mais il y a certaines bonnes choses et puis des choses qui seront très simples, très, très visibles. Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez supporter encore un tout petit peu ou bien est-ce que vous pensez que c'est... D'accord. Hier, il y a un enfant qui disait, mais c'est hula hoop, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, ces cercles en plastique, ça fait quoi dans l'église? C'est moi qui ai demandé à votre pasteur, je dis frère, pour éviter que je les apporte de Suisse, est-ce que tu pourrais trouver quelque part ces hula hoop? J'aimerais les utiliser pour ma prédication. Donc n'ayez pas peur, nous sommes dans une église, je ne vais pas vous faire une danse du ventre, d'accord? Ça serait vraiment déplacé, ça serait irrespectueux de le faire ici, mais juste pour montrer quelque chose. J'aimerais vous parler du respect. On parle de relations, mais vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un s'il n'y a pas de respect l'un pour l'autre. Maintenant, le mot respect, si je demande aux plus jeunes parmi nous, mais explique-moi le respect, c'est quoi le respect? Je pense qu'il serait peut-être un petit peu emprunté, parce que c'est un terme abstrait. Mais maintenant, pour que tout le monde comprenne bien, y compris mes amis les plus jeunes, eh bien, j'aimerais utiliser ces deux hula hoops. C'est juste le Seigneur qui m'a montré ça l'année dernière. Je devais prêcher sur ce sujet à l'assemblée du frère Ed Biskel à Cloverdale, près de Vancouver. Et avant, j'avais juste fait un petit dessin sur le flip chart, comme ça, pour parler du respect. Puis là, c'est une assez grande assemblée. Puis d'un coup, le Seigneur m'a dit, mais utilise des hula hoops comme ça pour montrer que ce soit très visible. Et je peux vous dire une chose. Les chrétiens de cette église, j'en ai revu plusieurs pas après, mon frère, et même les jeunes, même les enfants, frères, on ne pourra jamais oublier ce qu'on a vu et entendu dans cette réunion. Le respect. Donc je mets ces deux cerceaux en plastique, là, un qui est bleu, l'autre qui est rose, comme ça, par terre devant vous. Ça, je pense que vous voyez tous bien. Maintenant, c'est quoi le respect? Ça, c'est pas Frère Branham, c'est François le Picard. Donc, c'est pas parole de l'Évangile, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, je vous aimerai toujours. D'accord? C'est juste une illustration que le Seigneur m'a mise à cœur, je crois que ça vient de lui. Si vous pensez que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas un problème pour moi. C'est juste ma manière de présenter la chose. Je crois que Dieu a donné à chacune de ses créatures, à chacun de ses fils, de ses filles, eh bien, une estime personnelle, une estime de soi, hein, de son intégrité, de sa personne. Dieu nous a donné quelque chose qui est à nous, c'est moi, c'est qui je suis, c'est ce que je suis. Et ce que Dieu nous a donné, c'est comme un petit bout de territoire qui est délimité par ce cerceau. Maintenant, si je rentre dans ce cerceau rose, eh bien, je peux dire, dans ce cerceau, c'est ce que je suis, c'est qui je suis, c'est ma personne, François le Picard. C'est ce que Dieu m'a donné et je dois prendre soin de cet homme, cet individu. Je dois veiller à ce que son corps soit en bonne santé, qu'il ait une bonne hygiène mentale. On ne pense pas n'importe quoi, n'importe comment et tout ça. Des pensées pures, saines et tout cela. Je dois veiller aussi à l'état de mon âme et tout cela. Donc, j'ai une responsabilité, comme vous aussi, à l'égard de la personne que vous êtes. Vous avez une intégrité personnelle, une position personnelle. Donc ça, c'est mon territoire. Maintenant, Lucas, tu pourrais venir jusqu'ici, s'il te plaît, hein? J'aurais pu prendre Nathanaël, mais tu es d'accord qu'on demande à Lucas, hein, ce soir? D'accord. Maintenant, tu viens dans ce... Donc Lucas, maintenant, c'est un gentil petit garçon aussi, un jeune garçon. Maintenant, lui, il est dans le cercle bleu, comme cela. Ça, c'est lui, c'est Lucas. Hein? Lucas, pardon. Il y a un S, mais il ne faut pas le lire. Lucas, pardon, excuse-moi. Maintenant, Lucas, eh bien, c'est donc le fils de frère Eric et de sœur Mélodie. Eh bien, il est là, sur son territoire à lui. Tu as 10 ans, n'est-ce pas vrai? Voilà. On peut dire, oh, mais ce n'est qu'un enfant. Mais même que c'est qu'un enfant, pour Dieu, c'est une personne. C'est un être humain à part entière, quel que soit l'âge. Qu'on soit nouveau-né, enfant, adulte, vieillard, nous sommes une personne, nous avons une existence propre. Donc, dans un cercle, il y a un homme appelé François le Picard, dans l'autre cercle, il y a un garçon qui s'appelle Lucas Jacques, le nom de famille. Merci. D'accord, je ne savais pas. Lucas Jacques. Maintenant, je vais juste faire un petit... Donc, regardez bien maintenant la scène, c'est très visuel. Maintenant, comme ça, disons... ça, je viens... Non. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la scène? Avez-vous vu ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé?
Bah, vous êtes passé dans l'autre cercle.
Voilà. Je suis entré dans le cercle de Lucas. Dis-moi encore un petit peu plus là-dessus.
Hein? Là, tu ressens ça.
Je te pose la question. D'après
sens comment maintenant ?
Serré.
Serré. Bon, maintenant, si je me mets vraiment à l'aise, donc je ne veux pas être coincé non plus, donc je prends mes aises comme ça. Dis-nous tes impressions.
Je suis bientôt sorti de mon territoire.
Voilà. Est-ce que tu apprécies, c'est confortable pour toi, tu te sens bien à l'aise, ça va, t'es content, tout va bien. Dis-nous ce que tu penses. Sois sincère, dis-nous la vérité.
Je me sens pas du tout à l'aise.
Est-ce que vous avez entendu ? Lucas ne se sent pas à l'aise. Est-ce qu'il a quelque chose contre moi, pensez-vous ? Est-ce que j'étais méchant avec lui ? Qu'est-ce que je lui ai fait ?
Rien.
Non, mais disons, je ne l'ai pas frappé. Est-ce que je t'ai frappé, Lucas ?
Non.
Est-ce que je t'ai craché dessus ?
Non.
Est-ce que je me suis moqué de toi ?
Non.
Et pourtant, il est mal à l'aise. Est-ce que vous savez pourquoi il est mal à l'aise ?
Oui. Parce que tu le bloques.
Il était tout seul, puis après je suis venu. Puis après, oui.
Parce qu'il se sent plus serré que quand il était seul.
Tout ça, c'est vrai, c'est juste. C'est un peu bousculé. C'est vrai, tout à fait. Mais la chose, c'est au moins que vous remarquiez, je suis entré sur son territoire sans son approbation, sans son invitation. Pourtant, je n'ai pas des mauvais sentiments, je ne veux pas lui faire du mal et tout, mais je me suis permis, parce que j'ai 59 ans, parce que je suis un homme, parce que ceci, parce que cela, et que lui, c'est juste un petit gamin de 10 ans, eh bien, de toute façon, j'ai le droit de venir, et puis si j'ai envie d'être là, ben je serai là, et puis il n'a rien à dire, et puis voilà. Eh bien, mon action était un manque de respect. Comme je le comprends. C'est vrai. Ce n'était pas de ma part, peu importe la différence d'âge, et je suis pasteur ou quoi que ce soit. Mon comportement à son égard a montré que je ne le respectais pas. J'avais mon territoire, où là, c'était chez moi, lui était chez lui, et maintenant je ne lui ai pas dit, Lucas, souhaiterais-tu que je vienne près de toi ? Ça serait pour peut-être le serrer dans mes bras, ou peut-être lui serrer la main, ou quelque chose comme ça. Je ne lui ai pas posé de question. Simplement, comme si de rien n'était, eh bien, je suis entré comme ça sur son territoire et je l'ai poussé pour me mettre à l'aise. C'est un manque de respect. Dire oui, mais il ne faut pas exagérer, c'est un garçon de 10 ans et tout ça. Même qu'il n'ait que 10 ans, c'est un être humain et que je dois respecter. Et donc maintenant, eh bien, j'aimerais établir une relation avec lui. J'aimerais me rapprocher de lui. J'aimerais qu'il sache que je l'aime. Mais maintenant, si, disons, je rentre sur son territoire, je vais marcher sur les pieds. Eh bien, j'ai beau lui dire, Lucas, mais je t'aime. Mes paroles le diront, mais mes actions le feront douter. Parce qu'il dira, mais s'il m'aimait vraiment, eh bien, il ferait attention à son approche. Il ne viendrait pas comme ça, boum, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme ça. Il viendrait tout gentiment, je pourrais lui dire, Lucas, est-ce que tu me permets de m'approcher de toi ? Est-ce qu'on pourrait parler ensemble ? Est-ce que je pourrais te chuchoter quelque chose à l'oreille, comme ça ? Dire quelque chose pour qu'il soit préparé. S'il me dit, non, restez où vous êtes. Bon, je devrais rester où je suis, si je le respecte. Donc, je ne devrais pas rentrer sur son territoire sans son accord, sans son approbation. Ça, c'est le respect. D'accord, merci Lucas, c'est très gentil. Tu m'as dit que tu t'appelais comment ?
Pardon ?
Rebecca, excuse-moi. Quel âge as-tu, Rebecca ? 11 ans. Et toi, tu t'appelles Lydie ? Julie. Julie, hein ? Julie, et tu as 15 ans, c'est ça ? Pourrais-tu venir jusqu'ici, s'il te plaît ? Donc maintenant, ce n'est plus un petit enfant, c'est une jeune fille de 15 ans qui est pratiquement aussi grande que moi, hein comme cela. Eh bien maintenant, elle est là. Nous n'avons aucun lien de parenté naturel entre nous. C'est une jeune fille de votre communauté. Moi, je suis un frère visiteur, étranger, tout cela. Maintenant, si je me conduisais avec elle, comme je le fais avec mes filles ou avec mes belles-filles, que je avec mes filles ou mes petites-filles, pardon, mes filles ou mes petites-filles, parce que je n'ai pas de belles-filles, mes petites-filles, hein, que je les prends dans les bras, je les cajole, je les embrasse et tout, comment te sentirais-tu ?
Génie.
Aimez-vous les uns les autres, la Bible même, saluez-vous par un saint baiser, toutes ces choses-là, mais
tu l'as dit sincèrement. Et je crois que la raison, elle penserait tout à coup, mais on se connaît depuis quelques heures comme ça, mais comment se fait-il qu'il se permet tout à coup de me serrer dans les bras, de commencer à me donner des petits bisous et tout cela et tout, mais il y a quelque chose qui ne joue pas quelque part. Elle commencerait à avoir peur, avec raison. Pourtant, mais je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un homme désaxé, tout cela. J'aimerais juste lui témoigner de l'amour, de l'affection. Mais elle le ressentirait mal, avec raison. Et c'est pour expliquer au niveau des relations. J'aimerais avoir une relation avec cette jeune fille, mais quelle sorte de relation avoir ? Comment maintenant exprimer mes sentiments d'une manière que ne se sent pas menacée ? Parfois on dit « Oh, mais les gens sont agressifs et tout cela. » Mais savez-vous pourquoi les gens sont agressifs ? Parce qu'on ne les respecte pas. Très souvent, c'est cela. Regardez dans la nature. Eh bien, beaucoup d'animaux sont territoriaux. Je suis allé dans le parc Kruger en Afrique du Sud et le frère qui nous accompagnait nous disait eh « bien, regardez ces hippopotames. » On a vu beaucoup d'hippopotames. Eh bien, les hippopotames en liberté tue plus de personnes que les lions. On va dire un hippopotame, ce n'est pas un carnassier. Eh bien, d'après les statistiques, il y a plus de personnes, d'êtres humains, tués par des hippopotames que par des fauves, des carnassiers. Savez-vous pourquoi ? C'est parce que les hippopotames sont très territoriaux. Et quand il y a des braves femmes africaines qui vont à la rivière pour faire leur lessive et toutes ces choses-là, elles disent, bon, ben, c'est notre rivière, c'est près de notre village, etc. Eh bien, elles passent sur le territoire d'un hippopotame. Et l'hippopotame n'est pas un animal qui est agressif en lui-même, mais il se sent menacé. Parce que quelqu'un, sans invitation, est entré sur son territoire. On voit cela avec les chiens, les chats, tout cela. Eh bien, vous savez qu'ils marquent leur territoire. Ils urinent ici et là, à gauche, à droite. Mais pourquoi ? C'est pour dire aux autres, eh bien, que tu passes cet endroit-là, tu entres sur mon territoire. Et si tu viens sur mon territoire, il y aura une réaction. Mais ne leur en voulons pas, c'est normal. C'est quelque chose que Dieu donne à chacun pour qu'on se protège. C'est au niveau de la protection de notre intégrité, de notre individualité, de notre personne. Eh bien, quand on se sent menacé, c'est pas qu'on veut faire du mal, mais on se sent désécurisé et on se défend. Et quand on se sent menacé, souvent on devient agressif. N'est-ce pas vrai ? Donc maintenant, Dieu est le Dieu de la paix, de l'amour, de l'unité, de l'harmonie, des bonnes relations et tout cela. Mais ça fait partie intégrante d'une bonne relation. Respecter son prochain. Qu'il soit grand, petit, homme ou femme, le respecter. Maintenant, eh bien, Julie, c'est ça ? Eh bien, c'est une jeune fille, elle est en train de devenir une jeune femme et tout cela. Comment vais-je lui prouver mon amour ? Je suis un homme, c'est une femme, une jeune femme. Comment vais-je lui prouver mon amour ? Eh bien, en lui montrant par mon attitude, mes paroles, mon regard, mes gestes et tout cela, que je la respecte. Et la respecter veut dire, je vais garder une distance avec elle. Je ne vais pas entrer sur son territoire, je ne le ferai pas, disons, par respect pour elle, mais je ne vais pas me serrer contre elle ou me frotter contre elle ou l'approcher de trop près pour pas qu'elle se sente gênée et qu'elle puisse avoir des sentiments mélangés. Mais qu'est-ce qu'il me met ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Je ne veux pas qu'elle ressente cela. Ça ne serait pas une preuve d'amour de ma part. Mais parce que je l'aime et je la respecte comme Dieu la respecte, eh bien, il faut qu'elle sache que, disons, je ne vais pas prendre des libertés qui puissent la mettre mal à l'aise. Je vais la respecter, je peux lui serrer la main,
Je crois que c'est correct, une bonne poignée de main, on peut faire cela. Mais je vais vous dire une chose. À Yverdon, Suisse, juste à côté de notre salle de réunion, il y a une maison d'habitation qui est habitée par une famille érythréenne. L'Érythrée, c'est juste à côté de l'Éthiopie. Ce sont des réfugiés en Suisse qui sont là depuis une vingtaine d'années. Ils ont fui leur pays et sont musulmans. Et depuis que nous avons cette salle, c'était depuis l'année 2000, pendant 2 ans, on a travaillé pour faire des travaux de transformation. Et M. Osman, Ramadan Osman, et moi, nous avons lié d'amitié. Nous avons presque le même âge, je suis de juin, il est de décembre. Et nous sommes devenus des bons amis. Il nous a invités chez lui. Ah, la bougie, merci frère. Très gentil, oui, tout à fait. J'ai dû mettre ça là un petit instant. Et maintenant, mon épouse et moi, on était invités chez eux, nous invitent à manger, toutes ces choses-là. Et puis moi, disons, selon mon éducation, eh bien, je suis allé vers Mme Osman pour lui serrer la main. Bonjour Mme Osman. Puis il m'a dit, mais dans notre religion, on ne touche pas la main d'une femme mariée. Disons qu'on ne doit pas la toucher. C'est pour quelqu'un de l'extérieur, extérieur à la famille, eh bien, il ne doit pas toucher sa poignée de main ou n'importe quoi. On ne touche pas une femme mariée. Il faut dire, oh, mais vous êtes en Suisse maintenant, maintenant il faut changer votre mentalité, maintenant, vous devez faire comme nous et tout cela. Mais j'ai voulu gagner sa confiance, j'ai voulu savoir que je l'aime et que j'aime sa famille et sa femme. Eh bien, par égard pour eux, quand j'entre chez eux, je dis bonjour Madame Osman, bonjour Monsieur François, on m'appelle Monsieur François. Hein? Mais mon épouse, elle, eh bien, peut l'embrasser, la serrer dans ses bras, mais moi pas. Donc, pour lui montrer que je l'aime, je n'entre pas sur son territoire, même si peut-être son éducation, mes valeurs, tout ça, ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je veux la respecter pour qu'elle ne se sente pas mal à l'aise avec moi. Et maintenant, après une dizaine d'années, je peux vous dire, nous sommes venus de très, très proches amis. À tel point qu'il nettoie devant notre église, et des fois il a neigé, avant qu'on arrive à l'église, ce monsieur musulman enlève la neige pour que nos chrétiens puissent entrer à l'église. S'il y a des fois, avec le vent, des papiers, des feuilles, des choses comme ça qui ont soufflé, qui sont venus juste devant notre porte d'entrée, il balaye avant que nous venions à l'église. Ou des fois, plusieurs fois, il m'a téléphoné. « Monsieur François, il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a, Ramadan ?»« Je crois que vous avez laissé la lumière allumée dans l'église. » Il dit « Ah, mais merci, c'était un oubli. Merci, Ramadan. » Il m'informe. Des fois, des gens viennent à l'église, c'est pas l'heure de la réunion. Il sort de chez lui, il dit « Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Vous cherchez Monsieur François ?» Eh bien, je vous donne son numéro de téléphone. Il reçoit de l'argent de l'État parce que c'est un réfugié. On met cet argent sur un compte bancaire. Et pendant plusieurs mois, il m'a dit, eh bien, gardez ma carte bancaire. Elle est plus en sécurité avec vous que si je la laisse à la maison chez moi. Et depuis maintenant plusieurs années, eh bien, quand nous quittons l'église avec mon épouse le dimanche matin, hein, il guette par la fenêtre comme ça parce que des fois, on sort à des heures différentes. Et quand on sort, il sort avec un sac en papier avec un repas chaud pour ma femme et pour moi. On rentre à la maison, on n'a plus qu'à manger, c'est déjà tout prêt. Il y a du riz, il y a du poulet, il y a des choses comme ça dedans. Je ne lui ai rien demandé. Et lui, il est musulman convaincu, il va à la mosquée. Moi, je suis chrétien convaincu, mais on s'aime et on se respecte. On a deux religions différentes. Mais il apprécie nos valeurs, il voit notre comportement, notre tenue vestimentaire. Lui aussi veut protéger ses enfants de la cigarette, de la drogue, de l'immoralité, tout cela. Donc nous avons des valeurs assez proches, sauf que lui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne nous met pas sous une loi, mais qui change le cœur pour qu'on ne pêche pas. Mais on est vraiment très proches. Mais j'ai dû apprendre le respect, le respecter lui. Et je ne viens pas comme marteau en disant, de toute façon, votre religion ne vaut rien du tout. Moi, j'ai la vraie religion, lui taper dessus. Je lui ai donné une Bible en arabe. Et il respecte la Bible et il connaît certaines choses de la Bible. Il dit oui, on sait que Jésus-Christ va revenir et tout cela, Jésus va revenir. Mais maintenant, si je pense que moi j'ai une religion meilleure que la sienne, ce ne sont pas mes arguments, ce n'est pas une attitude, disons, agressive ou disons autoritaire qui vont le convaincre et le convertir. Il faut qu'il voie que dans notre vie, il y a quelque chose que lui n'a pas. Il est en train de voir quelque chose, lui et sa femme et tout ça. Et vraiment, il nous aime. Et il a parlé à tous ses congénères, tout ça. Mais vraiment, à côté de chez nous, il y a un pasteur et on est amis. Il m'a présenté à ses amis, même des gens religieux, et musulmans et tout cela. Juste pour vous montrer le respect. Donc, revenons maintenant à Julie. Eh bien, j'aimerais que Julie sache que parmi les chrétiens, on se respecte. C'est-à-dire, on garde une distance. Et c'est important pour chacun d'entre nous et pour les jeunes aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est allez, viens que je t'embrasse, bisous ici, bisous là, tout ça. On peut dire, bon, mais c'est anodin, c'est rien du tout, c'est juste un petit truc comme ça. Même dans les églises et tout cela. Mes frères et sœurs, je crois pouvoir dire que dans nos églises chrétiennes, ça a commencé par des petits bisous ici et là. Mais qu'est-ce qu'on apprend bientôt? Celui-là est tombé dans l'adultère. Celui-là est souvent des pasteurs. Parce que justement, eh bien, on était tellement proches les uns des autres et on voulait vraiment se témoigner de l'affection d'une façon très physique et tout cela. Et le prophète de Dieu a dit, frère Branham a dit, j'ai le Saint-Esprit, mais un homme ne peut pas serrer une femme dans ses bras sans ressentir quelque chose. N'oublions pas, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On ne veut pas simplement dire, oh, mais moi je suis spirituel, je suis saint, j'ai le Saint-Esprit, je ne risque rien. Non, non, frère et soeur, je ne fais pas confiance à ma chair. Même que je suis chrétien depuis bien des années, ma chair est faible. Donc je dois me protéger et protéger mon entourage aussi. Comment? En s'aimant, se respectant, en gardant une distance, en respectant le territoire de chacun. Je peux prendre la sœur Michel, l'épouse du pasteur. C'est une sœur en Christ, c'est une femme de pasteur. Je pourrais lui demander, je ne vais pas le faire, mais sœur Michel, pourrais-tu venir ici aussi? Comment est-ce que je vais prouver à cette sœur en Christ que je l'aime vraiment? C'est en la respectant. Et en respectant son mari, mon frère Michel, et en gardant une distance, je vais lui serrer la main, je vais être très correct, très poli avec elle, je ne vais pas me permettre des familiarités, tout cela, pour lui prouver que je l'aime. Vous savez qu'il y a maintenant des adultes qui abusent de jeunes enfants. Savez-vous l'excuse qu'ils donnent? Mais j'aime tellement les petits enfants, ils sont tellement choux, tellement mignons. Et vous savez ce qu'ils font ensuite? Mais sous le beau nom de l'amour, et je peux vous dire une chose, ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Quand on fait ça, c'est qu'on n'aime pas la personne, on est simplement égoïste, égocentrique. Mais si on aime les enfants, si petits soient-ils, eh bien, on doit faire très attention à son comportement, à ses paroles, à ses gestes, pour ne pas maintenant qu'ils se sentent menacés. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, maintenant c'est en train de changer, beaucoup d'enfants qui n'osent pas dire non à un adulte, et on abuse d'eux. Même il y a maintenant des gens qui disent maintenant aux enfants, vous avez le droit de dire non. Dès que vous savez ce qui est bien et mal, et tout, s'il y a un adulte et tout cela, que vous connaissez, toi, qui dit, mais allez, on fait ceci, on fait cela, eh bien, dites-lui non. Fermement, non. Vous avez entendu cela? Il faut que nos enfants aussi apprennent à dire non pour garder leur intégrité, leur pureté, tout cela. Savoir dire non au mal, non au péché, même si c'est sous l'influence d'adultes. Nous, les adultes, on doit prendre le respect de tout le monde. Les gens qui croient comme nous, qui ne croient pas comme nous, peu importe qui c'est, même les gens les plus gâchés par la vie, peu importe, nous les respectons. Regardez le Seigneur Jésus avec la femme. Je vais peut-être laisser aller t'asseoir. Merci beaucoup, Julie. Regardez la femme au puits de Jacob, la femme samaritaine. Une femme qui avait eu 5 maris dans sa vie et qui vivait en concubinage avec le 6e et qui est venue là au puits de Jacob à un moment où les autres jeunes filles vierges ne venaient pas parce qu'elle était mise de côté à cause de sa vie. Eh bien, regardez Jésus, la manière dont Jésus a parlé avec cette femme. Cette femme avait une mauvaise image d'elle-même. Elle connaissait sa vie de péché. Elle savait qu'elle avait soif d'amour, mais elle n'avait pas trouvé vraiment l'amour. C'est pour ça qu'elle allait d'un homme à l'autre et tout cela. Et Jésus est assis au bord du puits. Cette femme est arrivée. Je ne lui ai pas dit, « Femme, repends-toi! T'es une pécheresse! Qu'est-ce que tu as fait ?» Il n'a pas parlé comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez la douceur et l'humilité de Jésus. Il a dit, « Femme, j'ai soif. Donne-moi à boire, s'il te plaît. » Et en faisant cela, il a valorisé cette femme. Il a montré à cette femme que malgré sa condition, elle pouvait faire du bien à quelqu'un d'autre. Jésus s'est... Vous direz, mais qui a dit ça? Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin de cette femme? Non, il était Dieu dans la chair. Frères et sœurs, il avait soif. En plein milieu du désert, il pouvait mettre ses mains comme ça. Que mes mains se remplissent d'eau. Et l'eau serait venue de nulle part. Parce qu'il est le Créateur. Pour remplir ses mains, il leur fait... J'ai plus soif. Mais t'as trouvé où cette eau? L'eau était créée. Elle est venue directement dans moi. Je suis le Créateur. L'eau peut venir n'importe où. Vous l'aurez pu faire...
Hop, et de l'eau serait venue de nulle part pour tomber dans sa bouche. Il est le Créateur. Mais il s'est volontairement limité. Il s'est abaissé. Il a dit, femme, pourrais-tu me donner à boire? Puis elle a dit, mais écoute, toi, tu es un juif, moi, je suis une samaritaine. Ça, mais non, mais c'est, j'ai tellement soif, donne-moi à boire. Hein? Et c'est ça, comme ça qu'elle a commencé à gagner le cœur de cette femme. Et après que cette femme a commencé à ouvrir son cœur, et là, Jésus lui a parlé d'une autre eau, d'une eau vive, une eau qui donne la vie éternelle. Et sa vie a complètement changé. Il a respecté une femme de mauvaise vie. Ça, c'est l'amour de Dieu, cette chose-là. Si vous connaissez un petit peu le message de Frère Branham, il a parlé passablement sur le respect, mari, les femmes, les enfants, les parents, toutes ces choses-là. Mais un exemple, une fois Frère Branham, il était garde-chasse à ce moment-là, il était déjà prédicateur, mais en même temps, pour gagner sa vie, garde-chasse. Et puis, il devait aller prier pour un homme dans sa maison, quelque part dans la campagne. Il arrête sa voiture au bord de la route, il dit, mais pour gagner du temps, je vais laisser ma voiture là et je vais passer à travers le pâturage pour aller directement chez cet homme, prier pour lui, puis après je continue mon travail. Donc Frère Branham arrête sa voiture, il avait un fusil ou un pistolet comme garde-chasse, il dit, je laisse ça dans la voiture, ça ne va pas des prix pour quelqu'un avec une arme avec moi, il laisse tout ça dans la voiture, il enjambe la clôture et commence à marcher comme ça dans le pâturage. Il arrive au milieu du pâturage, il voit quelque chose qui bougeait là, un peu plus loin. Ah! Un taureau. Et s'est souvenu que ce taureau était connu pour avoir déjà tué un homme. C'était un taureau tueur. Réaction humaine, il dit, il n'y a pas d'arbre sur lequel je puisse monter. Il a évalué la distance jusqu'à la clôture, il a dit, mais si je cours là-bas, il y sera avant moi. Je n'ai pas mon arme sur moi. Et Frère Branham a dit, eh bien, je vais attendre la mort. Je m'apprête à mourir. C'est fini pour moi. Le taureau se lève, il commence à gratter comme ça, vous savez, c'est un mauvais signe, hein, comme ça, et il commence à charger droit en direction de Frère Branham. Et Frère Branham a dit, bon ben, j'ai aucune échappatoire, je dois m'apprêter à mourir maintenant, il a déjà tué quelqu'un, c'est mon tour maintenant. Je n'ai pas pensé que j'étais sur son territoire. Un taureau et un prophète de Dieu. Et tout à coup il dit, mais, et quand le taureau s'est approché, eh bien, il s'est excusé auprès du taureau. Il a dit, excuse-moi, j'ai oublié que tu étais dans ce pâturage. Et je suis en train de passer par là pour aller prier pour un homme malade. Mais je regrette. Et il s'est excusé, un homme, un prophète, à un taureau. Il lui a présenté des excuses. Il s'est humilié, il s'est fait petit devant lui. Mais pardonne-moi, c'est ton terrain, c'est ton pâturage, c'est ton territoire et tout cela. Et il dit, à ce moment-là, quelque chose est arrivé. Il dit, oh, je souhaiterais que ça puisse être toujours là. Il a senti une onction d'amour divin venir sur lui. Et plutôt que de haïr ce taureau, il a dit, je l'ai aimé. Et Dieu est intervenu, parce qu'il avait une bonne attitude de respect vis-à-vis du taureau. Et le taureau est arrivé, chargeant à fond la caisse. Et à quelques mètres du prophète, il a freiné et s'est arrêté. Il a commencé à bouger la tête de gauche et de droite. Comme ça, il n'y avait plus ce qu'il fallait faire. Il a fait demi-tour. Il est reparti se coucher. N'est-ce pas merveilleux? Une leçon de respect avec un animal. Les animaux sont sensibles à cela. Hein? Vous pouvez les approcher. Pourquoi est-ce que les animaux... Frère Bam a dit, il est allé en Afrique et tout cela, dit, mais un lion, il ne va pas vous faire du mal si vous n'avez pas peur de lui. Mais c'est vrai qu'il faut respecter l'animal. S'il se sent menacé, si vous venez vers une mère qui a des petits et tout cela, vous n'avez pas la bonne approche. La mère sentira que ses petits sont menacés. Elle va devenir mais féroce et folle comme ça. Elle va vous charger, pas pour vous faire du mal, pour défendre ses petits. Pourquoi? Elle s'est sentie menacée parce que vous ne l'avez pas respectée. Vous comprenez la scène comme ça? Oui ou non? Ah bon, merci. Bon, quelle heure est-il? Non, je n'ose même pas regarder. Je ne sais pas. J'aurais encore juste une chose comme ça. On pourrait s'arrêter là, mais si vous me permettez encore cela. Combien aiment les histoires d'amour? Je parle d'amour en être humain, les histoires d'amour. Vous aimez les histoires d'amour? Oui? Oui? Il y avait une fois un jeune homme qui venait d'un pays de montagne au centre de l'Europe.
Et ce jeune homme, eh bien, a été poussé par le Saint-Esprit à partir aux États-Unis parce qu'il avait soif de la parole. Il voulait connaître un message prophétique. Il a tout laissé derrière lui. Il est parti là-bas pour la parole. Et puis, il est arrivé dans une église, il était bien accueilli et tout cela. Et il était heureux parce qu'il voyait Jésus-Christ dans les frères, dans les sœurs. Il était béni par la prédication et tout. Et un soir, après la réunion, l'épouse du pasteur et une autre sœur sont venues vers ce jeune homme en disant « Frère, voudrais-tu rencontrer une jeune fille qui vient d'arriver dans l'église et qui a étudié le français pendant 4 ans ? Peut-être ça te ferait plaisir de parler un petit peu français avec elle. » Et ce jeune homme a dit « Mais d'accord, volontiers. » Et on a présenté ce jeune homme à cette jeune fille. Et je vais demander à cette jeune fille de venir jusque vers moi maintenant, s'il te plaît, chérie. Voilà, excuse-moi. Est-ce que je peux encore faire cela avec vous, hein? Je ne veux pas embarrasser mon épouse, je ne veux pas non plus vous charger, je ne veux pas profiter de votre patience, mais juste des petites choses comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc, elle a aussi son territoire. Elle avait 18 ans et le jeune homme avait 20 ans. Maintenant, c'était un être humain, elle avait son territoire, son intégrité personnelle, et le jeune homme aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand on les a présentés l'un à l'autre? Ils se sont serrés la main. C'est comme ça que ça a commencé. Ce fut le départ de leur première relation. C'était une relation fraternelle. Un frère et une sœur en Christ qui se saluent en se serrant la main. Première relation, frère et sœur en Christ. C'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, ce jeune homme, il avait commencé la traduction du film « La profondeur qui appelle la profondeur ». Combien connaissent ce film « La profondeur qui appelle la profondeur » ? Ah, mais malgré toute sa bonne volonté, il avait vraiment beaucoup de peine avec l'anglais de ce prophète William Branham. Donc il avait essayé, mais il avait besoin d'aide. Et cette jeune fille, c'était l'été, elle était en vacances, elle venait de passer son bac, et elle était d'accord d'aider ce jeune homme pour la traduction de ce film. Et pendant plusieurs semaines, l'un et l'autre ont travaillé ensemble, presque tous les jours, à la traduction de ce film. Alors a commencé une deuxième relation. Ils sont devenus collaborateurs. Ils ont travaillé ensemble à un même projet. Ce n'était plus frère et sœur, ça c'était déjà une des relations. Maintenant, ils devenaient collaborateurs, travaillaient ensemble à un même projet. Pendant qu'ils traduisaient ensemble, ils ont commencé à faire connaissance, parler un peu de leur passé, de leurs expériences et tout cela. Et alors qu'ils parlaient ensemble, ça créait des liens d'amitié l'un avec l'autre. Ils sont devenus des amis en Christ. Et les semaines ont passé, les mois ont passé, et ils sentaient qu'il y avait de plus en plus d'affection l'un pour l'autre, hein, qui commence à s'aimer de plus en plus. Ça devenait vraiment sérieux. Alors ils ont demandé à l'église de prier pour cela, ma famille, tout ça, prier aussi pour cela, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu et tout. Et ils sont connus au mois de juillet 1970, et le 21 novembre 1970, ils se sont mariés à l'église. Alors une autre relation a commencé. Ils devenaient mari et femme. Donc chacune de ces relations avait ses caractéristiques. Alors, le frère et sœur en Christ, plan d'égalité, ami, plan d'égalité, collaborateur, plan d'égalité. Mais maintenant, mari et femme, ce n'était plus la même chose. Combien savent que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, hein? Femme, soyez soumise à votre mari. Va-t-elle l'accepter? Elle l'a accepté. Elle a pris sa place de femme chrétienne. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné cette place et Dieu m'a donné cette place. Ça ne fait pas que l'un est plus que l'autre, c'est une position différente. Et je veux que vous sachiez, d'après ce que vous avez vu là, que Jésus-Christ, il occupe chacune de ces positions. Il est aussi bien en position de supériorité que d'égalité ou d'infériorité. Et parce que lui a occupé chacune de ces positions, ça veut dire que chacune de ces positions est bonne. Elle est bonne. Que vous soyez tout en bas de l'échelle, Jésus a pris cette position, il était heureux. Il ne s'est pas plaint, oh, pauvre de moi, je suis tout en bas, tout le monde me domine. Non, non, il était heureux d'être notre serviteur. Il était heureux dans la position d'infériorité. Toutes les positions sont bonnes si on les accepte, parce qu'on représente Christ dans cette position-là. Donc là, mari et femme. Les mois passés, et 9 mois plus tard, cette dame a enfanté une première fille que le couple a appelée Sarah. Une autre relation. Ils sont devenus papa et maman. C'est autre chose. Ce n'est pas juste mari et femme, maintenant c'est papa et maman. C'est une autre responsabilité, une autre relation. Et au mois de mars 1971, c'est ça, eh bien, ils ont décidé de revenir en Suisse pour apporter ce message en Suisse, en France et dans d'autres pays. Et après, après environ une année, la famille du garçon, du monsieur, a dit, mais tu ne pourrais pas nous faire des petites réunions comme ça, on aimerait connaître ce message, mais pas juste quelques petites miettes, mais donne-nous tout le message. Et on a commencé des petites réunions de maison, dans la maison de mon grand-père. Donc là, je suis devenu pasteur. Et j'étais pasteur de ma femme qui est devenue ma brebis. Alors c'était une autre relation. Elle a dû aussi m'accepter comme son pasteur. Et on était juste 7 personnes. Il y avait ma mère, ma grand-mère, ma tante, mes 2 cousines, mon épouse et moi. C'est comme ça qu'on a commencé. Et là, il n'y avait personne pour jouer de la musique, comme musicien. Et mon épouse avait fait du piano quand elle était plus jeune. Je lui ai dit, mais tu ne pourrais pas apprendre à accompagner les cantiques, comme ça sera agréable dans un peu de musique. Elle a accepté. Elle est devenue la pianiste ou l'organiste de l'église. C'était une autre relation. Et les années ont passé, les filles ont commencé à se marier, elles ont eu des enfants, et maintenant, eh bien, ce couple est grand-parent de 4 petites filles. Une autre fonction, grand-parent, c'est encore autre chose. C'était une nouvelle fonction, une nouvelle responsabilité ou position. Et dernièrement, je suis allé au Congo, Kinshasa, pour 2 semaines, 3 semaines. Je ne sais plus combien de temps c'était, chérie, au Congo. Un voyage missionnaire pour visiter des églises, je crois à peu près 3 semaines. Et mon épouse était aussi invitée par les pasteurs là-bas. Et elle m'a accompagné dans ce voyage missionnaire, elle a pu aussi encourager les sœurs et tout. Et puis là, eh bien, elle est devenue missionnaire avec moi. On a fait un voyage missionnaire ensemble. Ça a commencé au mois de juillet 1970. Et nous sommes au mois de mai 2010, c'est ça, hein? Eh bien, toutes ces cordes, toutes ces relations existent toujours. Nous sommes toujours frères et sœurs en Christ. Nous partageons la foi dans un même Dieu, dans une même parole de Dieu, dans un même message. Elle a sa vie spirituelle personnelle avec Dieu, j'ai la mienne aussi, mais on partage, on échange, on se fait du bien. Nous sommes toujours amis. Elle est ma confidente, je suis son confident. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Et pour cela, je dois aussi me mettre à son niveau. Je suis le mari, mais je dois aussi m'approcher d'elle pour l'écouter. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais parce que je l'aime, eh bien, je dois pouvoir l'écouter sans la critiquer, sans la contredire, simplement qu'elle puisse vider son cœur. Et j'aimerais dire ceci, parce qu'il y a des fois de la souffrance chez les couples chrétiens où le mari est le chef de la famille, la femme est son aide, est soumise à lui, donc on peut dire tout va bien, et pourtant il y a de la souffrance. Pourquoi ? Parce que la femme, l'épouse chrétienne, a d'autres besoins. Elle a besoin d'avoir quelqu'un à qui elle peut ouvrir son cœur, sans avoir peur d'être mal comprise ou critiquée ou comme cela. Qui remplira ce rôle d'écoute et d'ami ? Si le mari ne s'abaisse pas à son niveau, elle ira chercher quelqu'un d'autre. Et c'est là où les problèmes peuvent commencer. Donc c'est important pour nous, les hommes mariés, eh bien, d'aimer assez notre épouse, tout en en restant le chef de la famille, responsable devant Dieu, mais à certains moments, de descendre pour se mettre au niveau de l'épouse et pour essayer de lui dire, chérie, comment est allée ta journée? Comment ça va? Qu'elle puisse s'ouvrir sans avoir peur d'être mal jugée ou d'être critiquée ou comme cela. Ça, c'est important. Et Frère Branham nous dit ceci même, j'ai des citations, où Frère Branham, il voyait que son épouse était très fatiguée, il y avait des gens qui avaient défilé à la maison pour des entretiens et tout, et Frère Branham est allé jusqu'à faire la vaisselle dans sa famille, dans sa maison. Quoi? Le prophète de Dieu qui lave la vaisselle? Mais Frère Branham m'a dit, peut-être que vous ne comprendrez pas cela, que je fasse le travail de la femme, mais c'est parce que j'aime ma femme. Il a dit, j'étais secoué les tapis aussi, s'il y a de la poussière, et les voisins m'ont vu peut-être dehors en train de secouer les tapis. Et peut-être les gens ont mal compris. Et Frère Branham s'est rendu le serviteur de sa femme pour soulager la tâche de sa femme. Ce n'est pas l'homme qui est le dictateur en disant « C'est moi le chef, c'est moi qui commande, fais ceci, fais ça !» Traiter la femme comme une esclave, comme un paillasson. Le prophète de Dieu a dit « Votre épouse, c'est votre reine. Elle doit être la reine à la maison. Elle doit être aimée, respectée. C'est sûr qu'elle a sa position, j'ai la mienne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit se sentir rabaissée, écrasée ou humiliée comme elle est une servante ou un esclave. Une esclave, non, elle est la reine à la maison. » C'est pour ça que l'homme doit encourager sa femme, doit apprécier sa femme. Et Dieu m'a montré souvent, eh bien, après le repas, il dit, chérie, merci pour le bon repas. Savoir dire merci, montrer sa reconnaissance. Seigneur, eh bien, chérie, merci d'avoir entretenu la maison. Merci pour ceci, merci pour cela. L'épouse a besoin aussi de se sentir appréciée. Surtout quand elle reste à la maison. Les femmes qui sont mariées mais qui vont travailler à l'extérieur, elles ont une récompense. Elles ont un salaire à la fin du mois, c'est encourageant. Mais la femme qui reste au foyer, elle n'a pas de salaire, elle travaille, quelle est sa récompense? Et c'est son mari qui, le premier, je crois, devrait lui dire, chérie, vraiment, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi, pour les enfants, pour la famille, tout ça, merci beaucoup. Et tout faire pour la soulager, même des fois, lui rendre des services, se mettre en position d'infériorité pour la servir. C'est ça que j'ai appris dans la Bible et dans le message aussi. Bien, toutes ces relations sont encore là, et tout cela, et dit ça, c'est la grâce de Dieu. Mais regardez maintenant, il peut y avoir peut-être une des relations des fois qui flotte un petit peu, il y a peut-être un petit grincement, une petite tension, mais regardez toutes ces cordes encore qui restent. Regardez ça. Si une corde est solide, mais maintenant il y en a combien ici? 3, 6, 9 cordes. Il y en a peut-être encore d'autres. 9 cordes qui lient cette femme à cet homme. On peut dire, c'est ma femme. Il y a des hommes qui se croient tout permis. Non, non, même que vous êtes marié, elle a aussi son territoire, j'ai mon territoire. Je dois faire attention de ne pas maintenant entrer sur son territoire comme ça brutalement. Elle doit sentir que je la respecte, je viens avec son invitation. Ou alors, simplement avoir des égards, ne pas, il y a des hommes qui veulent tout, je suis le chef, je ceci, je cela. Non, non, ce n'est pas du respect cela, même si c'est son conjoint. Toujours dire, mais maintenant, tu es d'accord, chérie? Qu'est-ce que tu en penses? Et tout cela, des égards, du respect, de la douceur. C'est ça que j'ai appris du Seigneur durant ces dernières années. Certainement vous aussi, mais juste pour vous montrer les relations au sein du couple. Et c'est ça que Dieu veut pour nous tous, d'une manière ou d'une autre, avoir de bonnes relations les uns avec les autres, d'amour, de respect, respecter l'autre, son territoire, que personne ne se sente agressé ou menacé. Comme ça. Et ça, je crois, c'est l'amour de Dieu. Une belle histoire d'amour qui va continuer juste dans l'éternité. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est simplement comprendre la parole de Dieu et toutes ces choses. Eh bien, prions. Seigneur bien-aimé, comme tu es bon, comme tu es grand, Seigneur. Et Seigneur, toutes ces choses, toutes simples, mais très concrètes, très pratiques que tu nous apprends, Seigneur, au cours des années de marche avec toi, Seigneur, on fait beaucoup de fautes, mais Seigneur, tu es là, tu nous corriges, tu nous reprends. Et Seigneur, on reconnaît, tu as toujours raison. Et Seigneur, nous acceptons ta correction, nous acceptons ton jugement sur nos vies, parce que tu as toujours raison et nous savons que tu nous aimes. Seigneur, nous voulons marcher dans ta direction, vers la perfection, vers la maturité spirituelle. Seigneur, eh bien, merci de nous aider les uns et les autres à progresser avec toi, à grandir avec toi. Seigneur, comme c'est merveilleux de pouvoir te connaître, de pouvoir te laisser agir au travers de nous par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ce n'est pas à nous, mais Seigneur, c'est toi en nous, le Saint-Esprit en nous qui vit sa vie, la parole qui vit elle-même au travers de nous, montrant que nous avons une vraie révélation de ta parole. Seigneur, eh bien, je te remercie pour ces bien-aimés qui ont été tellement attentifs. Seigneur, je sais que la réunion est longue, je sais qu'ils sont certainement fatigués, que leur corps est fatigué, mais Seigneur, j'espère que leur âme a pu être encouragée, que cette âme qui a soif de toi, qui aime ta parole, qui n'est jamais fatiguée d'entendre ta parole, bien que leur âme a pu se délecter de ces paroles, de ces encouragements, de cette instruction. Seigneur, merci de nous aider. Je te prie, Père, donne-nous une bonne nuit de repos, renouvelle nos forces. Seigneur, si tu veux encore nous parler demain, eh bien, nous sommes à ta disposition. Seigneur, parle-nous, encourage-nous. Seigneur, aide-nous dans notre marche. Nous avons besoin de toi et nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, plus que cela, j'aimerais pouvoir dire je suis amoureux de toi ce soir. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important que toi dans ma vie. Seigneur, c'est un plaisir, c'est une joie pour moi de faire tout ce que je peux pour te plaire, pour te faire plaisir. C'est mon privilège de te faire plaisir. Merci Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.